Cube Radio. Marc-André Leclerc.
La politique lui coule dans les veines. Il provoque et remet en question. Il démystifie le vrai du faux. Des débats, des commentaires, des opinions.
Marc-André Leclerc.
Bon matin tout le monde, mardi 5 juillet 2022. C'est un plaisir de vous retrouver à Cube Radio. Comme vous le savez, on est à l'aube hein, d'une élection provinciale le 3 octobre. L'ensemble des Québécoises et des Québécois retourneront aux urnes pour l'élection générale 2022, élection à date fixe. Donc, on sait à quel moment cette élection-là va être déclenchée par M. Legault, là, soit à la fin du mois d'août. Et ce matin et hier soir, là, j'avais déjà eu là, cette information-là et ce matin, c'était également là et confirmé dans la presse que l'ancienne journaliste de TVA, LCN, également porte-parole du côté d'Air Canada présentement et ancienne candidate conservatrice, Pascale Derry va faire le saut pour la CAQ, donc encore une grosse candidature pour la CAQ du côté de Repentigny parce que la députée actuelle de la CAQ dans Repentigny, Lise Lavallée, ne se représente pas pour l'élection du 3 octobre. Également, dans cet article de Denis Lessard de la presse, on peut lire que Christine Fréchette, ancienne présidente de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal, se présentera dans Saguenay pour remplacer Daniel Mécan. Également, grosse bataille du côté des îles de la Madeleine où, au cours des prochains jours, prochaines semaines, la candidature du maire actuel des îles, Jonathan Lapierre, devrait se confirmer. Donc, et là, ça va être très intéressant parce que M. Lapierre va se présenter contre le député péquiste Joël Arsenault. Et M. Lapierre et M. Arsenault, en 2013, avaient fait la bataille du côté de la mairie des îles de la Madeleine. Donc, ça va être un match revanche là, pour M. Lapierre et M. Arsenault. Également, deux nouvelles également qu'on peut lire dans ce texte, dans la presse, par rapport, il n'y a pas encore de prise de décision en ce qui concerne la ministre Nadine Giraud. Dans Bertrand, on sait que Mme Giraud a souffert d'un cancer au cours des derniers mois. Heureusement, elle est revenue là, en activité là, au cours de l'année 2022. Et un départ, hein? Beaucoup de députés ont fait leur départ à la fin de la session parlementaire et c'est dans Chute de la Chaudière que Marc Picard, là, qui est un ancien député adéquiste, là, sous Mario Dumont par exemple, donc M. Picard est là depuis très longtemps et ce qu'on entend là, à gauche et à droite, c'est que le départ de M. Picard est confirmé quand même depuis quelques temps, mais que la CAQ ne voulait pas là, laisser le champ libre là, du côté du Parti conservateur du Québec avec Éric Duhaime. Donc, on le voit bien, à 90 jours de l'élection du 3 octobre, beaucoup de candidatures. Et ce qui est quand même intéressant de voir, c'est que la CAQ, là, vraiment, sont en train de recruter des candidats, pas seulement pour être députés, mais également pour être ministres. Donc, on voit que l'entourage de M. Legault là, veut vraiment tout mettre pour remporter le plus grand nombre de comtés possible. Mais d'un autre côté, on sait que quand tu remportes beaucoup de sièges, ben il y a quand même un nombre restreint de ministres, donc ça peut faire quand même plusieurs malheureux. Parlant de malheur, encore malheureusement, une tuerie du côté de Chicago, dans la banlieue nord, à Allen Park. Donc, c'est là que c'est vraiment terrible, là. C'est parce qu'on est dans la parade du 4 juillet, la fête de l'indépendance, la fête des Américains. Et là, on parle d'au moins 6 morts, entre 20 et 30 blessés. Là, il y a des chiffres là, à gauche et à droite. Donc, plus de 20, entre 20 et 30 blessés présentement. Le présumé auteur de cette tuerie a été arrêté hier soir en milieu de soirée. Encore une fois, là, c'est vraiment une tuerie qui nous rappelle, mais qui relance hein, tout le débat sur les armes à feu, et également là, qui est une autre journée triste, surtout comme ça dans une parade là, du 4 juillet, et on peut entendre là, le président américain Joe Biden là, commenter la situation.
You all heard what happened. You all heard what happened today. But each day, we're reminded there's nothing guaranteed about our democracy. Nothing guaranteed about our way of life. We have to fight for it, defend it, and earn it by voting.
Ce qui va être intéressant de voir aussi, c'est comment justement là, tout ça s'inscrit dans un contexte très particulier, parce qu'il va y avoir des à l'automne prochain, l'automne 2022, l'automne qui s'en vient, autant des élections, oui, au Québec, mais également les élections de mi-mandat. Comment le débat entourant le contrôle des armes à feu va s'inscrire et comment les démocrates et les républicains vont se positionner sur ce dossier. Vous le sentez sûrement, c'est la belle saison, on est le 5 juillet, mais quand même, on voit que beaucoup de gens dans nos... Dans mon entourage, c'est le cas. Par moment, dans le vôtre aussi, que les parties, que la COVID est un peu de retour. On le sent dans les chiffres. Est-ce que c'est une vague? Est-ce une vaguette? Là, c'est tout le temps dur à dire lorsqu'on est au cœur de l'épisode. On verra au cours des prochains jours comment ça va s'orchestrer. Mais il y a beaucoup de professionnels de la santé qui s'inquiètent par rapport aux parties, aux rassemblements extérieurs. Il y en a beaucoup. On peut penser à Québec. Là, ça s'en vient, le Festival d'été de Québec. Il y a beaucoup de festivals. Le Québec, c'est vraiment un endroit où on a beaucoup de festivals à travers la province. Chacun a ses rassemblements. On les a vus avec la Fête du Canada, avec la Fête nationale le 24 juin. Donc, comment la COVID va s'inscrire là-dedans? C'est un dossier qui est à suivre. On parlait du 1er juillet, bien sûr, de la crise sans logement. Hier, une histoire vraiment à briser le cœur du côté d'Alma, hein, parce que la crise de logement, c'est pas juste Montréal, c'est pas juste Québec, c'est pas juste les grands centres. Ça arrive aussi en région, et il y a un couple d'Alma comme ça qui sont présentement sans logis et qui ont dû passer la dernière nuit dans leur véhicule du côté d'Alma. Ils ont cogné à toutes les portes pour être capable là, de faire appel aux organismes qui aident, qui accompagnent là, les gens qui sont sans logement, là, parce qu'on est quand même, tu sais, le déménagement, c'est le 1er juillet, et là, on est rendu le 5 juillet, il y a encore des gens qui n'ont pas de logement, et au lac Saint-Jean, là, le taux d'inoccupation est de 0,7%, donc c'est vraiment, il y a vraiment très peu de logements vacants. On peut entendre là, les deux résidents d'Alma là, qui ont dû malheureusement passer la nuit dans leur véhicule.
On pourrait se trouver un loyer dans les deux jours, sinon ben, c'est des hébergements temporaires. Puis les hébergements temporaires, ben là, ils se séparent encore. Ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'il fallait que je trouve un loyer à 581 $, chauffé, éclairé. Ben, si les impôts ne sont pas faits, la même affaire.
On se retrouve... Comme ça, ça redonne le goût de retourner vers la rue.
On parle de mois de juillet, on parle de beau temps, mais c'est une grosse semaine pour le hockey. On l'a vu hier avec un point de presse de Kent Hughes, hein, le directeur général du Canadien, accompagné quand même de Vincent Lecavalier, un ancien choix de première ronde de la Ligue nationale de hockey. Et là, c'est le repêchage à Montréal. Hein. On va en parler beaucoup cette semaine, jeudi soir, première ronde. Et là, le Canadien, depuis plusieurs années, a le premier choix. Est-ce que ce sera Shane Wright ou Logan Cooley ou Yorev Slavkovsky? Donc, ça va être à suivre présentement. Monsieur Hughes n'a pas voulu donner d'indication, à part dire que ça jouait entre trois attaquants, probablement les trois noms que je viens de vous mentionner. Donc, ça va être à suivre là, jusqu'à jeudi soir pour voir comment le Canadien est là. Vraiment, c'est vraiment la pierre angulaire de la reconstruction. Et en terminant cette revue de presse, le retour de Patrick Roy derrière le banc des Remparts est confirmé. Donc, point de presse de Patrick Roy avec Jacques Tanguay hier du côté de Québec. On avait vu Patrick Roy très amer hein, de sa défaite lors des séries éliminatoires de la Ligue junior majeure du Québec. Il parlait même que lui, il se promenait en autobus à manger du poulet froid pendant que ses amis s'amusaient du côté de la Floride à jouer au golf. Il se demandait qu'est-ce qu'il faisait là. Mais Patrick Roy a décidé là, de revenir à la barre du Canadien. Et on peut l'entendre nous expliquer pourquoi il a décidé de revenir.
J'avais le goût là, de continuer l'aventure. Puis ce qui m'attache beaucoup, c'est nos joueurs. C'est un privilège pour moi là, de pouvoir travailler avec eux autres puis d'avoir la chance là, de partager, si tu veux, mes moments forts, mes moments moins forts. Puis le deuxième point, c'est la victoire. C'est un peu notre rêve là, de gagner. Puis cette année, on a eu comme le sentiment qu'on se l'est fait enlever.
Clairement, c'est une bonne nouvelle pour les amateurs de hockey du côté de Québec. Je pense que Patrick Roy donne un excellent spectacle derrière le banc. Plusieurs, dont votre humble serviteur, aimerait ça le voir un jour derrière le banc du Canadien de Montréal. Donc également, ce sera un autre côté, un autre dossier à suivre dans le monde du hockey.
Marc-André Leclerc.
Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
Savoir et comprendre, Marc-André Leclerc.
Allons rejoindre dans ce beau mardi matin Philippe-Vincent Foisy. Bonjour Philippe-Vincent.
Salut Marc-André. C'est un peu Philippe gris ce matin.
Ouais, un peu gris, mais le soleil est toujours là dans notre tête et dans nos cœurs. Bon, Philippe-Vincent, gros dossier. Là. Qu'est-ce qu'on fait avec le mot en N? Et là,
oh boy, c'est une grosse question, ouais.
Ça, c'est une grosse question, parce que là, Radio-Canada s'est fait taper sur les doigts par le CRTC avec un extrait où le chroniqueur utilisait le mot en N à plusieurs reprises, et là, le CRTC demande à Radio-Canada de s'excuser. Est-ce que toi, tu crois que Radio-Canada devrait, là, peut-être pas s'excuser, mais devrait prendre des manières et des façons d'aborder ce message-là ou d'envelopper, d'enrober à chaque fois qu'on utilise le mot en haine?
C'est parce qu'il y a des contextes, hein, Marc-André, puis je pense que c'est là où c'est important de le placer et de le cadrer comme il faut. Dans ce cadre-là, on citait le livre de Pierre Vallière, « Nègre blanc d'Amérique ». Mm. On ne l'utilisait pas pour insulter quelqu'un, on ne l'utilisait pas pour provoquer, on ne l'utilisait pas dans un objectif de discrimination, on citait une œuvre qui a utilisé ce mot-là dans son titre. Après, qu'on déplore l'utilisation, qu'on trouve que cette utilisation-là est exagérée, ça peut faire l'objet de débat, mais il faut être quand même capable de nommer l'œuvre si on veut être si on veut pouvoir en débattre. Moi, j'ai un problème avec le mot comme tel, parce que j'en ai parlé avec des gens de la communauté noire pour qui la simple utilisation de ce mot-là peut être blessante. Après, dans le contexte dans lequel on est, et là, le mot « contexte » ici prend tout son sens parce que c'est là où c'est important. Si on parle d'une œuvre qui a ce titre, ce mot-là, par exemple, Daniela Ferrière a écrit un livre de cette façon-là aussi. Ce matin, Richard Martineau en cite plusieurs de ces œuvres-là. À un moment donné, il faut être en mesure d'utiliser les mots qui ont été choisis, surtout si on veut débattre de ces mêmes mots. Alors, pour moi, Radio-Canada ne doit pas s'excuser. Au contraire, j'espère que Radio-Canada, par un souci de liberté d'expression, journalistique, va contester la décision, va porter cette décision-là en appel. J'espère que les juges plus hauts vont se réveiller et vont être conscients de ce qu'est la liberté d'expression. Si on regarde, parce que j'ai couvert plusieurs cas à la Cour suprême, notamment celui de Mike Ward et Jérémy Gabriel, la Cour suprême, dans cet arrêt-là, ressoulignait à grands traits, presque avec du crayon highlighter, là, du crayon jaune-orange fluo, pour dire, regardez, la liberté d'expression, ça existe. La liberté de ne pas être offensé, ça n'existe pas. Ce n'est pas un droit dans les chartes au Canada. Alors, faut quand même faire cette nuance-là. Alors, la décision du CRTC, elle est quand même très préoccupante parce que eux-mêmes reconnaissent que le mot n'a pas été utilisé dans un contexte discriminatoire, mais quand même, comme on n'a pas eu d'avertissement en début de chronique, comme le mot de façon générale et son emploi est utilisé de façon très péjorative, surtout dans le contexte en anglais, on demande à la Société d'État de s'excuser, et c'est là où c'est un gros problème, parce qu'on se dit, est-ce que le CRTC est en mesure de bien interpréter ses propres lois? Parce que dans les lois, normalement, il faut respecter la liberté d'expression. Dans les lois, on parle de ce fameux contexte-là où le mot doit être utilisé dans un contexte discriminatoire pour pouvoir enfreindre les lois. Et là, on voit que le CRTC n'a pas du tout respecté ses propres lois, on n'a pas du tout lu ou même bien interprété ses propres lois. Et c'est là, moi, où je trouve que c'est très problématique. Et c'est pour ça que je crois que Radio-Canada, la Société d'État, doit contester cette décision-là, doit aller le plus loin possible. Parce que en ce moment, ça peut causer quand même un petit malaise dans certaines salles de rédaction, parce que la radiodiffusion, c'est pas juste Radio-Canada, c'est tout ce qui est diffusé dans les médias traditionnels. Si on n'a plus le droit de débattre de façon adéquate de certains mots parce que ils sont jugés par certains au CRTC comme étant honni, on a un gros problème ici.
Puis là, on a vu hier plusieurs têtes d'affiche de Radio-Canada. Là, c'est les Patrice Roy, Céline Galipeau, Guy Lepage, Anne-Marie Dussault sont sortis pour appuyer et demander justement à leur patron de ne pas flancher, là, de rester.
Oui, puis avec raison. Puis ce matin, on les voit aussi. Je veux dire, il y a une lettre ouverte dans Le Devoir aussi qui vient appuyer ça. Je pense qu'il va y avoir une pression qui va être assez difficile à soutenir de la part de Radio-Canada. Le CRTC va devoir faire un examen de conscience. Il faut quand même souligner qu'il y a deux dissidences qui sont à lire aussi parce qu'il y a deux membres du CRTC qui disent que ça n'a aucun bon sens, la décision de la majorité, justement à cause des impacts et des répercussions sur la liberté d'expression. Moi, je dois t'admettre quand même que j'ai un certain malaise depuis un petit moment avec le CRTC. J'ai couvert les audiences de Radio-Canada, donc tous les jours j'ai écouté de longs, longs témoignages, de longues discussions, et on a passé beaucoup plus de temps du côté du CRTC à parler de diversité, à parler de représentativité, qu'à parler de contenu, qu'à parler de normes journalistiques. On était, certains commissaires défendaient le droit de certains journalistes de défendre leur point de vue, d'aller manifester, de prendre part, de ne plus donc être objectif dans certains dossiers en disant, ben regardez, comme c'est des gens, par exemple, des communautés autochtones, des gens des minorités, ben eux devraient avoir le droit de ne pas être objectifs quand vient le temps de parler de leur propre situation ou de parler de problèmes qui touchent de près ou de loin leur propre situation, alors qu'on n'a pas ou presque pas parlé de liberté d'expression. Donc, on est en train, du côté du CRTC, d'avoir une certaine forme de mentalité où c'est la diversité d'abord et avant tout, que ces gens-là, des minorités, peuvent faire ce que les autres ne peuvent pas faire, au détriment de ce qui est la liberté d'expression, au détriment de ce qui est les normes et pratiques journalistiques. Il y avait beaucoup de discussions à ce sujet-là. Il y avait un certain malaise, alors qu'on a très peu parlé de contenu, de discussions journalistiques aussi. Et quand on voit la décision qui a été rendue par le CRTC, on peut se poser des questions, surtout, Marc-André, à la lumière du nouveau projet de loi qui est en ce moment rendu au Sénat. Ça s'appelle C11. Ouais, c'est pour... Ouais. Ramener tout ce qui est Netflix et plateformes en ligne dans le giron du CRTC pour qu'il y ait de meilleures mesures, par exemple, pour découvrir du contenu canadien, ce qui est louable, ce qui a été demandé notamment par l'Assemblée nationale, pour faire en sorte que les Netflix et autres plateformes de ce monde contribuent aussi au contenu canadien. Sauf que la solution qu'on a mise, c'est de remettre ça dans les mains du CRTC, de donner des pouvoirs au CRTC qui sont énormes. Même le président du CRTC dit « on aurait techniquement le droit de avoir notre mot à dire sur le contenu qui est téléversé par des usagers. » Par exemple, vous sur YouTube, nous sur YouTube, par exemple, ben, ça pourrait faire en sorte que le CRTC aurait ces pouvoirs-là. Mm-hmm. Et quand je vois que le CRTC a de la difficulté à gérer ses propres lois actuelles, le fait de lui donner plus de pouvoir, moi, ça m'inquiète énormément pour ce qui va être diffusé sur Internet.
Philippe Vincent, dans 90 jours, 3 octobre, élection provinciale.
Toi, tu comptes les dodos, hein?
Ouais, moi, je compte les dodos. Moi, je suis comme ça. Je compte les dodos avant chaque élection. Et là, ce matin, là, ce qu'on apprend, il y a plusieurs nouvelles candidatures à la CAQ, et dont celle qui va faire le plus jaser, c'est celle de Pascal Derry dans Repentigny. En fait, est-ce que M. Legault, parce que Mme Derry, c'est une fédéraliste, là, s'est présentée avec les conservateurs au niveau fédéral.
Je te dirais que c'est une conservatrice, moi. Tu sais, moi, j'ai lu le texte ce matin et j'ai su ce que t'as appris aussi, mais moi, je le titrerais beaucoup plus. C'est une vraie conservatrice, là. C'est une vraie de vraie conservatrice à l'Institut économique de Montréal, qui s'est présentée pour Stephen Harper, qui est contre les subventions aux entreprises. C'est une grosse prise, mais une prise qui est un peu risquée aussi, là.
Ben, c'est le risque de la coalition. Je veux dire, moi, Mme Derry, je la connais bien. J'ai participé à son recrutement en 2015 là, au niveau fédéral. Donc, j'ai travaillé avec Mme Derry durant l'élection, la campagne de 2015. J'ai hâte aussi de l'entendre sur la loi 21, par exemple.
Ben oui.
Est-ce que vraiment est à la même
la
place?
La loi 101 aussi.
La loi 101
était quand même l'attaché de presse du PDG
de Michael Rousseau. Donc, peut-être que ce sera plus facile de gérer tout ça à la CAQ que gérer le président d'Air Canada à suivre. Mais est-ce que c'est là, Philippe Vincent, tu sais, le risque, tu sais, une coalition, là, un mané, c'est qui, là? Tu sais, c'est quoi la CAQ, là? C'est là, un mané, que peut-être pas avec M. Legault, parce que M. Legault est capable de tenir le jello ensemble, tu sais, en bon québécois, mais on dirait qu'une fois que M. Legault part, là, on dirait que le jello va éclater, là.
Ouais, ben, mais même avec lui, ça risque que c'est un petit peu compliqué de voir. Là, il y a du jello, maintenant qu'il y a des, tu sais, il y a des affaires, des collations. Quand j'étais jeune, je voyais ça, là. C'est comme des motons dans du jello. là, il y a des motons qui sont assez différents dans le même jello. François Legault, c'est le jello, mais à l'intérieur, on a des motons, on a des fruits, là, on commence à avoir des légumes. On se dit, est-ce que vraiment ça nous donne envie de manger tout ça? Pour le moment, ce jello-là, c'est François Legault et c'est l'attrait du pouvoir. Là, ça, c'est normal parce que, veux pas, le gouvernement est là, est tellement fort dans les sondages que quelqu'un peut se dire, ben regardez, je suis pas d'accord avec telle ou telle affaire, mais j'ai une chance de devenir ministre ou j'ai une chance de participer à ce gouvernement-là. Ben, ça vaut la peine de prendre le risque de faire le saut. Pour quelqu'un comme Pascal Derry, par exemple, qui veut faire de la politique depuis un bon moment, que tu as réussi à convaincre à en faire, qui n'a pas pu en faire, je peux comprendre qu'elle décide de faire ce saut à un certain moment. Faire des relations de presse, c'est intéressant, mais faire de la politique, ça l'est beaucoup plus, sauter dans l'arène. Donc, elle, je peux comprendre qu'elle décide de faire le saut, Après ça, elle a quand même eu le choix, là. Elle aurait pu aller au parti d'Éric Duhaime, aller au vrai parti conservateur, un parti qui ressemble quand même plus aux positions qui avaient été défendues par l'Institut économique de Montréal, des positions très à droite, très conservatrices. Et là, elle fait quand même le saut d'aller du côté de la CAQ. Pour François Legault, ça permet quand même de dire aux conservateurs un petit peu ambivalents, ben vous pouvez venir à la CAQ. Regardez, ouais. Pascale Derry, elle est là. Il y a de la place pour vous aussi. Comme tu dis, pour les fédéralistes, ça les calme aussi parce qu'on ne va pas juste recruter de nouveaux souverainistes, des ardents défenseurs de la souveraineté. Donc, on vient rééquilibrer un peu ça. Mais comme tu dis, moi, ce pudding-là, mettons, jello avec des motons à l'intérieur, semble de plus en plus hétéroclite, ce qui est correct pour la prochaine élection. Mais après ça, ça va être de remettre tout ce beau monde-là ensemble si M. Legault, le jello, n'est plus là.
Philippe Vincent, un gros merci.
C'est un beau surnom politique. C'est un beau surnom politique. François Legault, Jello, François, Jello, Legault.
Je suis pas sûr qu'il va mettre ça sur ses pancartes pour la prochaine campagne, mais, mais c'est le risque qui est là pour la coalition Unir Québec, c'est sûr et certain. Philippe Vincent Foisy, un gros merci et on se reparle.
Salut Marc-André.
Bye bye. Allons rejoindre Olivier Bourque, journaliste économique au Journal de Montréal. Bonjour Olivier.
Allô Marc-André.
Olivier, ben on peut quand même se réconforter. On est premier dans quelque chose. En fait, en ce qui concerne là, le bordel aéroport, on serait les pires du pire.
Ouais, les pires du pire, et on avait cette impression. Mais tu sais, des fois, l'impression qu'on a, c'est la bonne, hein?
Ouais.
Parce que lorsqu'on se compare, on se désole. Il y a des données qui sont sorties hier. C'est un site qui s'appelle FlightAware, okay. Qui est très, très facile à consulter, que je consulte souvent depuis quelques semaines. Si vous aimez les statistiques, il y a un aspect un peu nerd là-dedans, là. Mais ça donne toutes sortes d'informations, des pourcentages, etc., sur les vols un peu partout dans le monde. Et durant le week-end, la pire compagnie aérienne au monde, c'était Air Canada.
Wow.
Évidemment, en termes de retard. Alors, c'est ce qu'on calcule. On calcule pas nécessairement le service à la clientèle, tout ça, là. C'est vraiment donc les retards. Les deux tiers de ces vols, ça représente 700 vols, ont été annulés ou retardés. Et là, je regardais pour hier, il y a quand même 61%, donc hier, de ces vols, encore une fois, qui étaient affectés. Alors, ça s'améliore légèrement, là, mais Air Canada est encore la pire compagnie aérienne au monde. Et sais-tu quoi, Marc-André, je vais te faire un comparatif avec d'autres grosses compagnies, là, pour savoir où se situe Air Canada. Mmh. Aux États-Unis, sincèrement, là, parce que les problèmes qu'on entend, évidemment, ça touche plusieurs aéroports puis plusieurs transporteurs, mais les États-Unis, moins, je te dirais, actuellement. Là. Delta, tu vois, c'est 12% de ses vols qui sont affectés. American Airlines, c'est 15% de ses vols qui ont été retardés ou annulés. United, 16%. Alors, tu vois, c'est beaucoup mieux qu'Air Canada. British Airlines, c'est 32%, Lufthansa, 52%.
Alors, fait que là, Olivier, je vais juste revenir au chiffre deux secondes, Olivier. Donc, exemple Delta ou United, c'est 12 ou 16 % de retard, puis Air Canada, on est à 61 %
Exactement.
Wow.
Exactement. Alors, selon... Ouais. Donc, parce que depuis le début, on nous dit, ah, ça touche tout le monde, tous ouais. Les aéroports sont à peu près pareils, puis tous les transporteurs sont à peu près pareils. Je m'excuse, mais ce n'est pas vrai. Alors, oui... Alors, la reprise aérienne touche tout le monde, puis ça pose un défi pour la structure et le retour donc des voyageurs, des passagers. Mais il y a des compagnies aériennes qui font beaucoup mieux actuellement qu'Air Canada. Mm-hmm. Ça, c'est un. Deuxièmement, les aéroports, là aussi, ça va pas tellement bien. Toronto, Pearson est pire que Montréal, c'est la première des choses. Ah. Toronto était deuxième dans le monde durant le week-end pour les retards. Montréal, sixième. Alors, ça s'est légèrement amélioré hier. Mais quand même, on le voit, que ce soit pour les transporteurs et pour les aéroports, ça va pas tellement bien. Et hier, au journal, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, on va trouver les raisons qui expliquent pourquoi ça va aussi mal au Canada. Et là, je vais rester très, très simple. Je ne vais pas tout te détailler ça, mais on en a parlé plusieurs fois. Évidemment, il y a la pénurie de main-d'œuvre. J'ai quelques exemples pour toi. Regarde bien. L'Agence des services frontaliers du Canada, ils ont deux fois moins d'agents dans les aéroports qu'avant la pandémie. Toronto, par exemple, sont rendus, je pense, 300. Avant la pandémie, ils étaient 600. Alors, tu sais, souvent, on entend parler qu'il y a des gros bouchons, là, en arrivant aux douanes. Ben ça explique. Air Canada roule, je regardais le chiffre hier, 80% de ses effectifs de service à clientèle. Et eux, soit dit en passant, à l'embauche, là, c'est $16.50 pour les agents de service à clientèle. Donc, c'est $2 de plus que le salaire minimum pour se faire insulter toute la journée.
Non, mais est-ce que cette pénurie-là, Olivier, est-ce qu'on la voit depuis... Tu sais, on dirait que quand on regarde la pénurie de main-d'œuvre dans tous les secteurs, puis on parle du domaine, là, tout ce qui est voyage, déplacement, avion, frontières, c'est comme si le Canada, là, ou le Québec puis le Canada, c'est comme si la pénurie de main-d'œuvre était plus forte ici qu'ailleurs. Est-ce que c'est également dans tes chiffres, dans tes recherches, est-ce que c'est un constat qui se vérifie?
Bien, c'est sûr et certain que la pénurie de main-d'œuvre touche plusieurs pays. Le Canada et le Québec, avec le vieillissement de la population, c'est encore plus flagrant. Et le Québec, tu sais que c'est pire également que le Canada. Pour le secteur aérien, lorsqu'on regarde les nouvelles un peu partout dans le monde, c'est sûr qu'il manque beaucoup, beaucoup de personnel. Mais ici, on a l'impression que le problème est encore plus important. Les pilotes, par exemple, 1200 qui manquent actuellement. Pense à ça, Marc-André, 1200 au Canada.
Alors, ça, 1200.
C'est selon les spécialistes d'aviation. 1200. C'est sûr que c'est pour ça que ça roule carré actuellement. La reprise du secteur aérien est vraiment importante, beaucoup plus rapide que prévu. L'Association internationale de l'aviation civile prévoyait qu'on allait revenir au niveau pré-pandémique en 2024, alors que selon plusieurs, on y est déjà. Puis peut-être rapidement, il y a eu une mauvaise planification des transporteurs. Et, Air Canada, par exemple, elle a vu qu'elle n'avait pas ses effectifs, mais on a décidé de repartir comme si rien n'était avec autant de liaisons. Et là, on n'a pas été capable d'assurer. Alors, tu vois, il y a toutes sortes de raisons. Il y a un effet domino. Tu sais qu'il y a beaucoup de grèves aussi en France. Alors ça a un effet jusqu'ici. Et le gouvernement fédéral, tu sais, qui est blâmé pour le cafouillage dans le dossier des passeports puis de l'assurance-emploi, ben c'est sûr et certain que les aéroports, c'est sous sa juridiction. Il y en a plusieurs qui pensent qu'on aurait dû aider davantage les transporteurs à garder leur main-d'œuvre, leurs pilotes, leurs contrôleurs, et de faire une meilleure planification aussi des douanes.
Oui, puis du côté du fédéral, il y a beaucoup de pression aussi présentement, la fameuse application ArriveCan. Il y a beaucoup de pression que le fédéral là, enlève, là, au moins de mettre, hier le Bloc québécois demandait au moins de le mettre sur pause pour les prochaines semaines, parce que ça... T'sais, on est dans la bureaucratie. Est-ce que c'est vraiment essentiel ou pas de demander encore cette application-là? Donc, ça va être à suivre. Olivier, un autre sujet qui touche directement le Québec, c'est par rapport... On retourne, on sort de la pandémie, on retourne dans les cinémas. Il y a un gros joueur là qui va arrêter de la distribution, Film Séville. Donc, il y a des grosses craintes là, dans l'industrie du cinéma présentement. Là.
Oui, absolument, Marc-André, je te dis un petit mot là-dessus. C'est alors Film Séville, c'est la propriété de Yuan, qui est un joueur de Toronto, qui est la propriété de Hasbro. Alors, tu vois, donc c'est vraiment des poupées russes, là. Hasbro, on les connaît, c'est le fabricant de jeux qui fait à peu près 8 milliards de dollars par
année. Les casse-têtes, là.
Les casse-têtes, puis les différents jeux, t'as tout à fait raison. Il y a des petits affaires. Alors, ce qui se passe dans le cinéma québécois, Hasbro, là, entre toi et moi, Marc-André, il s'en fout complètement, là. Alors, c'est une petite affaire, là. C'est une petite grève, sur les films TV. Mais pour nous, nous rappelle le Michel Girard dans une chronique ce matin, puis j'invite les gens à la lire, ça vaut son pesant d'or. Parce que Iwan a décidé d'arrêter la distribution de films au Canada, notamment des films québécois. À la rigueur, il y a un autre joueur qui peut arriver puis s'imposer et prendre le marché qui est laissé par les films TV. Mais le gros souci, c'est le catalogue de TV. Parce qu'ils détiennent les droits de diffusion de plusieurs grands films ici. Alors, il y en a plusieurs qui pensent qu'on devrait rapatrier le catalogue des films québécois. Donc, un autre joueur achète les films. Et seulement pour te dire à quel point c'est un catalogue qui est important, je te nomme 5 films qui sont détenus actuellement par Séville. Donc, les droits de diffusion. Les Invasions barbares, Marc-André, qui a marqué notre
effectivement.
Génération. Le seul film québécois à avoir remporté l'Oscar du meilleur film étranger.
Oui.
Puis Incendie, Denis Villeneuve, la grande diffusion.
Oui.
Mommy de Xavier Dolan et aussi des gros succès comme Bon Cop, Bad Cop.
Il y a tout un catalogue.
Beaucoup. Oui, c'est un gros catalogue. Ouais. Alors, on espère que notre joueur sera capable d'aller mettre la main sur les droits.
Mais est-ce qu'il y en a d'autres distributeurs qui vont pouvoir prendre, au-delà du catalogue, est-ce qu'il y a d'autres distributeurs qui vont pouvoir prendre la place que Film Séville avait essentiellement au Québec?
Ben ça, c'est la grande question, parce que les films CV ratissaient large. Là. C'était vraiment le plus gros joueur en termes de diffusion. Il y a des diffuseurs qui sont plus petits, Mais lorsqu'il y a une acquisition comme ça, ça pourrait être intéressant, mais évidemment, donc ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Et aussi de mettre la main sur les droits de diffusion, ça prend quand même quelqu'un qui a des reins financiers assez solides.
Rapidement, en terminant, Olivier, on s'attend à une journée difficile là, sur les marchés boursiers.
Oui, ce qu'on appelle, de Marc-André, les contrats à terme ce matin, les futurs. Alors, j'ai regardé un recul de 140 points du côté du Dow Jones, de Wall Street. Hier, les marchés étaient fermés à cause du 4 juillet du côté des États-Unis.
Oui.
Mais on a toujours les mêmes inquiétudes liées à la récession, l'inflation. Depuis le début de l'année, seulement un chiffre pour toi, un recul de 15% pour le Dow Jones. Ça a remonté un peu la semaine passée, là, mais la séance risque d'être assez difficile. Alors, on va regarder ça.
Parfait. Un gros merci, Olivier Bourque, journaliste économique au Journal de Montréal. Olivier, on se reparle demain matin.
Plaisir. À demain.
Vous écoutez Marc-André Leclerc, Cube Radio. Cube Radio.
Y'all heard what happened. Y'all heard what happened today. But each day, we're reminded there's nothing guaranteed about our democracy. Nothing guaranteed about our way of life. We have to fight for it, defend it, and earn it by voting.
Voici les propos durs hein, du président américain Joe Biden à la suite de cette terrible tragédie du côté de Allen Park, du côté de Chicago. Donc, une tuerie avec six personnes décédées, près d'une trentaine de blessés. On va aller rejoindre Mathieu Fourreau, résident et journaliste à Chicago, pour voir qu'est-ce qui se passe du côté d'Allen Park. Monsieur Fourreau, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Fourreau, tout d'abord, là, pour le bénéfice de nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous dresser un peu le bilan, parce que on entend parler beaucoup dans les médias ici, là, au Québec, au Canada, de 6 décès. Également, là, les chiffres varient un peu là, au niveau du nombre de blessés. Pouvez-vous nous porter un peu nous brosser un peu le portrait là, en ce qui concerne cette terrible tragédie là, du côté de Chicago?
Oui, malheureusement, le bilan s'est assombri ce matin. 6 décès, 30 blessés, des gens qui sont pour certains entre la vie et la mort. Les victimes vont entre 8 ans et 85 ans. C'est donc toute une petite population familiale qui s'était assise sur la rue principale d'Iron Park lorsque le tireur s'est mis à tirer avec une arme automatique, des rafales de 25-30 balles à la suite et un bilan terrible malheureusement ce matin. Le seul soulagement, c'est que le tireur a été arrêté hier soir. Mais ce matin, effectivement, Highland Park, une petite communauté très calme, très paisible et assez bourgeoise au nord de Chicago, se réveille avec un terrible traumatisme.
Oui, vous avez raison, c'est un terrible traumatisme, surtout que c'était fait dans la journée, qui est une journée hyper importante là, aux États-Unis, le 4 juillet, parade là, de la fête de l'indépendance. Est-ce que ce matin, M. Fourreau, on a un peu plus là, d'indications? Là? On sait que le présumé auteur là, de ce crime terrible a été arrêté dans la soirée d'hier, un jeune homme de 22 ans. Est-ce qu'on a un peu plus d'idées par rapport aux motivations là, qui ont poussé là, à commettre là, ce crime-là?
Oui, Bobby Crimo, 22 ans. On ignore toujours ses motivations, mais on en sait un peu plus sur son profil. On sait que c'est un rappeur qui se faisait surnommer Awake. On sait également qu'il était fasciné par les tueries de masse, par la violence. Il avait posté récemment une série de vidéos musicales, de clips dans lesquels il se mettait en scène dans des tueries de masse, dans des écoles. On sait qu'une partie de la population américaine, malheureusement, est fasciné à une fascination morbide pour ces tueries de masse. Et donc, ce serait peut-être ce profil d'un loup solitaire qui aurait pris une échelle pour se hisser au sommet d'un commerce et profiter de ce rassemblement, malheureusement, une petite fête populaire, pour prendre position depuis un toit, un peu comme l'avait fait le tueur de JFK, avec une arme automatique, et en quelques minutes faire un carnage terrible. Il s'est enfui dès l'arrivée de la police.
OK. Donc, juste pour remettre bien nos auditeurs en contexte, donc hier, c'est vraiment durant la parade, qui était probablement dans le centre-ville d'Allen Park, et là que le tireur s'est placé là vraiment là par-dessus les spectateurs, là, si je comprends bien.
Oui, c'est exact. Il était 10h20. On était sur la fin de la parade, alors qu'on voit sur les images vidéo qui circulent sur les réseaux sociaux une dernière bande, une petite bande musicale, avec des saxophones, des jeunes. C'était vraiment une fête populaire avec des bénévoles et des familles qui étaient assises sur des chaises. Et tout d'un coup, le tireur a ouvert le feu avec une arme automatique, peut-être un AR-15, vous savez, l'arme favorite malheureusement des tueurs de masse ici aux États-Unis, avec une efficacité redoutable malheureusement quand il s'agit de faire de gros dégâts, de gros carnages. Et en quelques minutes, ce sont 6 personnes qui sont mortes, dont une sur la route de l'hôpital, 30 blessés. Et la rue, qui est une toute petite rue centrale de cette communauté très calme, s'est vidée en quelques instants. Et quand on voyait juste après les images prises par les reporters, juste après la tuerie, ben on voyait des chaises renversées, des gobelets, mais aussi malheureusement des poussettes. Certains pères de famille ont raconté avoir caché leur enfant dans des poubelles pour les protéger.
C'est quoi un peu le sentiment, vous, M. Fourreau, vous habitez là à Chicago même, vous êtes résident là-bas, c'est quoi un peu, là, j'imagine ce matin, là, c'est la consternation n'est pas juste là dans ce coin-là de Chicago, à Allen Park, là, ça va être toute la communauté, tous les Linois présentement là, qui est sous le choc.
Oui, vous avez raison, les festivités ont été immédiatement annulées par la ville de Chicago en ce jour d'Independence Day, qui est très important pour les Américains. Et ça peut paraître paradoxal, c'est vrai que Chicago est une ville habituée aux violences, c'est probablement la ville la plus violente des États-Unis avec 1000 homicides par an, c'est inédit à l'échelle même pour l'Amérique, 1000 homicides par an, c'est la seule ville avec autant de violence, et pourtant cette violence, elle touche principalement les quartiers pauvres sud et ouest, les communautés comme celle d'Island Park sont totalement épargnées par la violence, et c'est justement ce que recherchent les habitants, de se mettre dans ces petites villes calmes, pour éviter les violences qui touchent d'autres quartiers. Et puis, vous l'avez dit, l'Illinois, c'est un État démocrate qui a pris des mesures pour limiter les ventes d'armes, pour limiter notamment l'accès aux armes automatiques les plus violentes. C'est le cas dans le comté de Cook, où a eu lieu cette tuerie. Les armes automatiques sont interdites à la vente. Et pourtant, eh bien, ça n'a pas empêché ce jeune homme de s'en procurer une. Et c'est un peu le problème. Beaucoup d'armes sont trafiquées depuis l'Indiana voisin. Vous savez, il suffit d'une heure de route pour aller là-bas et se procurer toutes sortes d'armes qui peuvent être très dangereuses ensuite pour faire des tueries.
Ben, M. Fourreau, vous le mentionnez vous-même, là, parce qu'à chaque fois là, qu'une tuerie là, se produit aux États-Unis, malheureusement, là, il y en a beaucoup trop dans les derniers mois, dernières semaines, le débat là, sur le contrôle des armes à feu revient toujours. Comment vous pensez que ce qui s'est passé hier à Allen Park va s'inscrire, surtout qu'aux États-Unis, là, vous êtes en élection de mi-mandat là, à l'automne. Comment vous voyez un peu là, le débat entourant le contrôle des armes à feu? Comment ça va s'inscrire? Est-ce que les décideurs américains là, vont se réveiller, vraiment décider de mettre des contrôles beaucoup plus poussés là, par rapport à la vente de certaines armes à feu là?
Écoutez, j'aimerais vous dire que cette tuerie va tout changer. Et que l'Amérique va se réveiller avec des législations beaucoup plus strictes qui protègent par exemple ma famille ici à Chicago. La réalité, c'est pas du tout le cas. Il manque d'un vrai consensus politique sur la question. L'Amérique est très divisée sur la question. Et les élections à mi-mandat risquent de donner le pouvoir aux républicains, ceux qui sont le plus pro-armes, le plus pro-second amendement. La meilleure preuve, c'est que la tuerie d'Uvalde qui a traumatisé l'Amérique et qui a permis malgré tout un consensus pour la première fois depuis des décennies entre les républicains et les démocrates, eh bien même la tuerie d'Uvalde est parvenue à un consensus extrêmement faible, une loi qui va simplement permettre le contrôle du background check, c'est-à-dire des contrôles du casier judiciaire et de l'état mental des moins de 21 ans. En l'occurrence, aujourd'hui, le tueur qui a perpétué ce massacre hier avait 22 ans, donc il échapperait à cette législation. Autant vous dire que les tueries de masse, malheureusement, il risque d'en avoir d'autres en Amérique.
Tantôt, vous disiez, M. Fourreau, qu'il y a des événements hier soir qui ont été annulés là, du côté de Chicago là, à la suite de l'événement qui est arrivé à Allen Park là, en début de journée, en matinée. Est-ce que dans les prochains jours, est-ce qu'il y a d'autres, est-ce qu'il y a d'autres événements qui sont peut-être plus ou moins reliés avec le 4 juillet qui ont déjà été annulés là? Ça va être un peu, est-ce qu'il y a d'autres conséquences là, à ce qui s'est passé hier?
Écoutez, pas à ma connaissance, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'heure est au recueillement dans cette petite communauté d'Island Park. Une grande solidarité de la ville de Chicago, du gouverneur de l'Illinois, de nombreuses prières et de nombreuses, on a entendu Biden qui témoignait son recueillement et sa solidarité envers cette petite communauté bourgeoise et très calme. On a entendu également la vice-présidente Kamala Harris témoigner sa solidarité. 4% malgré tout chez les décideurs politiques, et notamment les décideurs démocrates qui gouvernent ici en Illinois, une certaine impuissance, une forme de désespoir, puisque la vérité, c'est qu'ils sont incapables de protéger les Américains contre ces tueries de masse qui touchent, on voit bien, aussi bien les pauvres que les riches, les jeunes que les aînés, et même, bien sûr, les écoles. C'est ce qu'on a vu à Uvalde, les écoliers et leurs professeurs, qui sont malheureusement des cibles privilégiées.
On a vu au cours des dernières semaines, en terminant, Joe Biden, le président américain, se rendre sur les lieux de certaines tueries. Est-ce que déjà à ce moment-ci, ça fait même pas 24 heures, vous me direz, est-ce que déjà on a des indications que M. Biden pourrait se rendre là, du côté de d'Allen Park?
Écoutez, je l'ignore. Ce que je peux vous dire, c'est que les décideurs politiques ici, que ce soit le gouverneur ou la maire de Chicago, vont défiler aujourd'hui sur les lieux, puisque l'heure est désormais aux prières, au recueillement. Et puis évidemment qu'il y avoir des rebondissements politiques dans la semaine, ça on s'y attend, sur législation, sur les armes. Ce débat, il est toujours vivant, plus vivant que jamais. D'autant plus que cette petite ville d'Island Park s'était fortement engagée pour le contrôle des armes, en allant jusqu'à la Cour suprême pour réclamer de pouvoir appliquer des contrôles encore plus stricts. Et ça paraît dingue que ce soit passé à Island Park, et que cette ville s'était fortement engagée auprès des victimes d'Uvalde, en solidarité avec cette autre commune dans le Texas. Donc déjà à l'époque d'Uvalde, Island Park était fortement mobilisé sur la question.
Mathieu Fourreau, résident et journaliste du côté de Chicago en Illinois, merci beaucoup, et nos pensées là, sont avec vous, bien entendu, dans ces moments difficiles. Merci et à bientôt.
Marc-André Leclerc.
Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
Savoir et comprendre. Marc-André Leclerc.
Culture et société.
Vous attendez la chanson Master of Puppets de, bien sûr, du groupe légendaire Metallica, et on en parle avec Marika Simard, journaliste culturelle. Bonjour Marika.
Bonjour Marc-André. Écoute, si je vous en parle ce matin, c'est parce que la chanson se glisse à nouveau dans le sommet des palmarès de musique, et c'est
comment
la faute à Stranger Things.
Ah oui!
La quatrième saison qui est actuellement en cours, c'est une magnifique saison qui connaît un succès fulgurant qui nous entraîne donc dans les années 80. Ce qui est particulier avec la quatrième saison, c'est qu'on l'a divisé en deux volets. Une première partie qui comprenait 7 épisodes et un deuxième volet qui est sorti ce vendredi 1er juillet, pas besoin de vous dire que c'était très, très attendu, qui comprenait quant à lui 2 épisodes. Et donc, là, pour animer ce deuxième volet qui est sorti ce week-end, les auteurs ont choisi une pièce emblématique des années 80, soit Master of Puppets de Metallica. Et pendant qu'ils ont écrit cette scène finale, les auteurs avaient vraiment cette chanson-là en tête. Elle a été adaptée par le fils d'un des membres de Metallica pour les besoins de la série. Et c'est une pièce, bon, on sait, ça a été très, très populaire lorsqu'elle est sortie en 1986. Mais là, 35 ans plus tard, elle se retrouve à nouveau au sommet des palmarès de musique. Et avant d'entrer en onde, je regardais du côté de Spotify aux États-Unis. La pièce se retrouve quand même en 12e position, bien avant la nouvelle chanson de Beyoncé, bien avant certaines pièces de Drake, de Justin Bieber. Du côté d'iTunes, la chanson Imagine se hisse en 2e position. Et Marc-André, voulez-vous savoir quelle est la chanson qui se retrouve en première position depuis des semaines?
Vas-y.
Running Up That Hills de Kate Bush, une chanson qui est sortie elle aussi dans les années 80, en 1985.
C'est la nostalgie, Marika.
C'est la nostalgie.
Les gens sont nostalgiques, hein, et encore plus, là, on parle d'un phénomène là, international avec Master of Puppets, mais au Québec, on est tellement nostalgiques, là, tu sais, autant en film, autant en musique, autant en culture. Donc, c'est quand même pas surprenant. Là, on a touché une corde sensible. Là, donc, c'est un bon coup là, de l'équipe de production de Stranger Things. Là.
Oui, effectivement, et cette chanson-là de Kate Bush se trouve aussi justement dans le premier volet de la quatrième saison de Stranger Things. Et je pense que oui, tu l'as bien ciblé. Je pense que les gens sont nostalgiques. C'est peut-être les deux dernières années où on a été un peu plus isolés, où on a eu besoin de réconfort, de retrouver des années un peu plus lumineuses. Donc, cette chanson-là, oui, se retrouve en numéro un. Je regardais encore ce matin, c'est toujours en numéro un sur les plateformes de téléchargement de musique.
Mais ça doit quand même être choquant, tu sais, pour les artistes, tu sais, les gens, tu sais, les musiciens, tout ça, qui travaillent fort, qui veut faire du nouveau contenu. Puis là, non. Ce qui marche, tu ressors, tu fais des covers, tu fais des reprises d'artistes bien connus. Donc, ça doit être quand même assez frustrant pour ceux et celles qui se forcent là-dessus. Là.
Je pense que la clé, ça va être de faire des relations de presse auprès des auteurs de Stranger Things pour la cinquième saison. Là,
effectivement, il y a des gens qui vont venir cogner à la porte, c'est sûr et certain. Marika, bon, on parlait de cinéma un peu plus tôt. Donc, présentement, là, il y a un film qui est fort attendu là, vendredi ici au Québec, là, le film Presque.
Presque, c'est attendu au Québec. C'est un joli film français, donc qui débarque, comme tu le disais, ce vendredi. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est un film qui a une certaine particularité. C'est un film qui a été réalisé et interprété par deux amis de grande date. Il s'agit donc de Bernard Campagne, qui est acteur et réalisateur, et Alexandre Jolin, qui est philosophe, écrivain, mais qui est aussi infirme moteur cérébral. Ça fait 10 ans qu'ils sont amis. Et la genèse de ce film-là, oui, elle est magnifique parce qu'elle est née justement de cette amitié qui est improbable, mais tellement sincère entre ces deux hommes-là. Ils ont donc décidé de transposer leur histoire à l'écran tout en y ajoutant une touche de romance. On écoute un extrait.
Vous faites quoi dans la vie?
En général, quand je le dis, ça jette un froid.
Moi, j'ai rien besoin de dire pour que ça jette un froid. Vous êtes content?
Qu'est-ce que vous foutez là?
Je voulais faire une expérience métaphysique.
Je vais vous larguer comme ça en pleine nature?
Mais y a pas de problème. Tout va bien. Je vous dérangerai plus.
Dans ce film, donc, on nous raconte l'histoire de deux hommes, vous l'avez compris, qui n'ont rien en commun, mais qui vont être amenés à se lier d'amitié. D'un côté, on a Louis, qui est un homme qui travaille à la tête d'une société de pompes funèbres, qui prend la vie comme on lui a appris, hein, avec une certaine rigidité, une certaine structure. De l'autre, on a Ignore, qui est un homme dans la jeune quarantaine et qui est d'une intelligence, d'une sensibilité incroyable, mais qui est pris dans un corps d'handicapé. Donc, c'est vraiment à l'image des deux hommes, comme ils sont dans la vraie vie. Et donc, ces deux univers-là vont se rencontrer et vont nous amener à réfléchir à des thèmes qu'on aborde quand même souvent au petit écran. Là, on réinvente pas la roue ici. Mm-hmm. Mais j'ai senti qu'on avait pris le soin de les traiter avec une espèce de pudeur, une délicatesse, une bienveillance qu'on voit rarement au cinéma. Donc, ça fait du bien. On aborde des thèmes de l'amitié, de la sexualité, de la mort aussi, de la philosophie. Et parlant de philosophie, ce que disait Alexandre Jolien, c'est que le titre est issu d'une réflexion philosophique. Presque, pour lui, symbolise le presque... Qu'est-ce qu'on saisit de la vie? Hein? C'est cette espèce de décalage qui existe entre la réalité et celle qu'on se fait de la réalité ou celle qu'on se fait de notre propre vie. Donc, c'est un film qui prendra l'affiche du côté de notamment du cinéma Beaubien ce vendredi.
Et là, Marika, on reste du côté du cinéma, un film qui est déjà attendu puis qui est déjà en tournage. Donc, ça a commencé là, les tournages là, de la suite du volet 2, là, du deuxième volet de Dune là, de Denis Villeneuve.
C'est ce qu'on apprenait, c'est ce que nous apprenait donc Maxime Demers dans le Journal de Montréal. Denis Villeneuve qui a donné le coup d'envoi, oui, au deuxième volet de Dune, sorti il y a à peine 17 mois. On sait donc qu'il s'est installé avec toute son équipe pour quelques jours dans le nord de l'Italie. Il est près de la tombe Brion. La tombe Brion, c'est un monument funéraire conçu par l'architecte Carlo Scarpa entre 1968 et 1978. Et c'est un lieu qui est très, très prisé par les touristes. Il sera donc fermé jusqu'au 8 juillet pour les besoins du tournage. Mm-hmm. Donc, après ce court séjour en Italie, on sait qu'il va s'installer dès le 21 juillet dans les studios où il a tourné le premier volet à Budapest, en Hongrie. Dune, le deuxième volet, devrait prendre l'affiche le 17 novembre 2023. Donc, ça s'en vient un an et demi.
Patience.
exact. Et on sait qu'il est très attendu parce que c'est un film qui a généré des recettes très, très importantes. Là. Je lisais ce matin, 400 millions de dollars au box-office mondial pour le premier volet. Ça a remporté 6 Oscars également. Donc, le deuxième volet risque de générer également beaucoup de curiosité.
On va prendre notre mal en patience et peut-être en réécoutant là, le premier volet de Dune. Marika Simard, un gros merci encore d'être avec nous ce matin. On se reparle bien sûr demain.
Vous écoutez Marc-André Leclerc, Cube Radio. Cube Radio.
Allons rejoindre David Santarosa, titulaire de maîtrise en enseignement et en philosophie et également enseignant au secondaire. Bonjour David.
Bonjour Marc-André.
David, hier, il y a un sujet, là, c'est quand même l'actualité quand même assez débordante, même si on est au début du mois de juillet. On a vu une sortie dans la presse de Gabriel Nadeau-Dubois où il a quand même annoncé un virage là, concernant la position de Québec solidaire là, sur les signes religieux.
Oui, en effet. Donc, normalement, Québec solidaire s'accordait avec le rapport Bouchard-Taylor, hein, donc qui disait que le port de signes religieux était interdit, en fait, aux juges et aux gardiens de prison, mais où les enseignants pouvaient le porter. Et maintenant, ils se rétractent, en fait, et tout le monde devrait pouvoir porter des signes religieux. Donc, s'ils sont élus, eux autres, ben aux poubelles la loi 21, la loi sur la laïcité de l'État, vraiment. Il souhaite que tout le monde puisse porter des signes religieux. Et là, j'ouvre les guillemets de Gabriel Nadeau-Dubois qui dit « On va permettre le port de signes religieux pour que tout le monde puisse travailler au Québec, peu importe ses croyances. » Or, évidemment, on le sait, ben, c'est pas parce que, en fait, des personnes de toutes les croyances peuvent travailler au Québec. La question, c'est le port de signes religieux pendant les heures travaillées. Donc, je pense que c'était très de mauvaise foi de dire ça de la part de Québec solidaire. Là.
Mais dans ton esprit, là, tu sais, il y a eu... Dans tout les discours et dans tout le débat plutôt là sur la loi 21, David, il y a eu toute cette question-là par rapport à les personnes en autorité, là, en position d'autorité. Donc, il y a eu tout le débat à savoir si on rentrait les enseignants dans cette catégorie-là. Pour toi, est-ce que les enseignants là sont clairement en position d'autorité et vraiment là, la laïcité devrait s'appliquer à eux?
Ça m'apparaît une évidence qu'ils font partie d'une autorité. Et d'ailleurs, ils sont déjà reconnus par la loi comme une forme d'autorité. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas de relations sexuelles entre un élève ou une élève et son enseignant-enseignante, ben on reconnaît déjà que c'est une personne en position d'autorité. Donc, le consentement ne serait pas reconnu comme valide de la part de l'élève, même s'il a 16 ans ou plus. Donc, la loi reconnaît déjà que c'est une personne en position d'autorité. Donc, moi, ça m'apparaît vraiment une évidence. Et d'ailleurs, toujours parlant de la loi, là, la loi sur l'instruction publique empêche les enseignants de porter des symboles politiques déjà. Donc, je vois pas pourquoi on devrait tolérer les symboles religieux. Ce serait de donner une espèce de passe-droit aux positions religieuses par rapport aux symboles politiques, là.
Mais est-ce que tu crois que vraiment, tu sais, que Québec solidaire dit qu'il veut fermer le débat sur ce dossier-là? Est-ce qu'il vient le réouvrir en voulant, comme ça, changer la loi 21? Est-ce que c'est purement stratégique? Est-ce que M. Nadeau-Dubois veut faire plaisir à sa base militante? On a vu dans leur dernier congrès, l'automne, le printemps qui vient tout juste de passer, qu'il était un peu rabroué par ses membres. Comment tu vois ce positionnement-là? Et au-delà de l'article dans la presse, on n'a pas vu ou entendu M. Nadeau-Dubois sur d'autres tribunes. Comment tu mets ça dans le spectre que dans 90 jours, on est en campagne électorale au Québec? Là?
Je pense que tu as fait raison. Là, il essaie de, si on veut, de fédérer l'opposition à la loi 21. Hein, donc, il essaie de se présenter vraiment comme, il l'a dit à plusieurs reprises, hein, comme l'opposition officielle à la CAQ, parce que c'est pas encore clair. Donc, le Parti libéral, qui est somme toute assez faible actuellement, on le sait, quand même un parti de pouvoir. On se doute bien qu'il va revenir à l'avant-plan, mais actuellement, il bat de l'aile un peu. Et donc, oui, il essaie de fédérer un peu l'opposition à la CAQ avec ça. Et oui, ça me fait plutôt rire de dire qu'il veut fermer le débat, c'est-à-dire qu'il va le réouvrir, le débat avec la loi 21, parce que, on le sait, il y a une majorité de Québécois qui appuient la loi 21. Et j'ai envie de dire qu'en démocratie, les débats ne sont jamais clos. C'est-à-dire qu'on continue toujours de débattre, de discuter de certaines choses. En fait, ça m'inquiéterait plutôt qu'il y a certains sujets qu'on n'a pas le droit de parler, dont on n'a pas le droit de parler, en fait.
Oui, mais parlant, David, de sujet qu'on a le droit ou pas le droit de parler, présentement, le débat fait rage par rapport là, à l'utilisation du mot en haine qui était faite dans une chronique du côté de la radio de Radio-Canada. Et là, le CRTC se mêle du dossier, demande là, à Radio-Canada des, entre guillemets, des excuses ou de mieux encadrer l'utilisation du mot en haine. Mais ça nous amène également aussi à, encore une fois, nous porter une réflexion par rapport à la liberté d'expression à l'université. On sait que c'est un pan qui a été ouvert par le gouvernement Legault d'être capable de... Ils ont demandé à Alexandre Cloutier, ancien député ministre péquiste, de se pencher sur la question. On est la saison un peu en pause, même si c'est souvent des cours d'été, donc la rentrée scolaire, là, autant dans les cégeps universités. Est-ce que le débat, justement, sur la liberté d'expression à l'université est réouvert un peu avec ce qui se passe au CRTC? Est-ce que ce qui était mis en place par le gouvernement, par le travail d'Alexandre Cloutier, c'est assez? Comment tu vois un peu ce travail-là? Parce que c'est un sujet qui était beaucoup dans le Canada anglais, la liberté d'expression sur les campus universitaires, mais qui s'est également transposé là, ici au Québec.
Oui, tout à fait. Donc, c'est un débat qui fait rage. Tout à fait, je pense qu'on rouvre ce débat-là. En fait, on le rouvre. Je suis peut-être pessimiste en ce sens-là, mais j'ai l'impression que tous les débats en lien avec la liberté d'expression aujourd'hui ont été perdus par les défenseurs de la liberté d'expression, et je m'explique. Aujourd'hui, à l'université, je pense pas qu'il y ait un enseignant, un professeur à l'université qui serait prêt à aborder l'essai de Pierre Vallière. Je pense à Samuel Paty en France. Je pense pas qu'il y ait aucun enseignant aujourd'hui qui est prêt à présenter des caricatures de Mahomet, même pour en parler du point de vue de la laïcité, de l'histoire des idées. Donc, tout ça, faire une pièce de théâtre, pour reprendre l'idée de Robert Lepage, on parlerait d'une autre race, entre guillemets, que nous-mêmes. Donc, je pense que tous les débats ont été perdus, pas nécessairement par des décisions institutionnelles, mais juste par la pression, par les pairs, par l'autocensure. Je pense que les gens vont s'autocensurer beaucoup, beaucoup actuellement. Ça ne va que continuer par la suite. Là.
Mais est-ce que... Comment on fait justement pour l'encadrer? À tes yeux, là, est-ce que le travail qui a été fait par Alexandre Cloutier, est-ce qu'on est allé assez loin? Ou encore là, le défi, c'est d'aller en application? Est-ce que ça va être un sujet, tu penses, durant la prochaine élection, durant la prochaine campagne, là, justement, la liberté d'expression sur les campus universitaires?
Ah, je l'aimerais. J'aimerais beaucoup ça. Je pense que ce qu'Alexandre Cloutier a fait, c'est très bien, mais en même temps, c'est insuffisant. Comme je le disais un peu tantôt, c'est-à-dire la liberté d'expression, elle peut exister d'un point de vue juridique. D'ailleurs, l'enjeu aujourd'hui, c'est pas la liberté d'expression d'un point de vue juridique ou très peu. C'est vraiment davantage d'un point de vue éthique, en quelque sorte. C'est-à-dire, quelles voix ont une certaine légitimité pour parler à l'université? C'est vraiment ça la question, c'est pas est-ce que tu vas aller en prison ou non, c'est vraiment pas ça, c'est vraiment quelle légitimité tu as avec ta voix. Et justement, on parle de l'université, on parle d'espace sécuritaire, tout ça, et je me posais la question, parce que moi j'ai fait mes études en philosophie, et j'ai entendu beaucoup de discours valoriser les violences politiques, parler d'abolition de la police, par exemple, valoriser les manifestations politiques violentes. Et même en fin de semaine, donc je lisais un docteur en sociologie de l'Université de Montréal qui dit « Une autopatrouille qui brûle est une promesse. » Et je me demandais s'il n'y a pas quelque chose qui relève quand même de la valorisation de la violence politique avec ça. Et est-ce qu'on aurait à tolérer ce type de discours-là à l'université? Là?
Non, probablement pas. Et c'est ça le problème présentement, c'est que c'est des... Je pense que les deux côtés, hein, on veut... c'est parce que je pense que tout le monde est pour, tu sais, la liberté d'expression, mais quand ça les réconforte dans leurs propos à eux, hein, tu sais, je veux dire, si quelqu'un pense comme nous, ben oui, il faut qu'il soit libre, parce qu'il faut qu'il s'exprime, parce qu'il pense comme nous, mais la liberté d'expression aussi, c'est d'accepter que d'autres personnes ne pensent pas comme nous, et c'est ça le grand défi, tout ça dans un cadre, un sujet qui va faire encore beaucoup jaser, surtout également là, dans le contexte là, du CRTC. David Santarosa, un gros merci, on se retrouve demain matin.
Certainement, bye.
Bye-bye.
Marc-André Leclerc.
Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
Savoir et comprendre. Marc-André Leclerc.
Allons retrouver Thomas Mulcair, ancien chef du NPD, ancien ministre provincial, également mon collègue analyste politique à la Joute et au Journal de Montréal. Plusieurs sujets à parler, bien sûr, avec mon ami Tom. C'est la grosse nouvelle, hein, quand même, ce matin, là, de l'arrivée de Pascal Derry à la coalition Avenir Québec. On l'a vu dans les dernières semaines, comment François Legault, son entourage, sont allés chercher Bernard Drainville, Caroline Saint-Hilaire, Sonia Bélanger, une professionnelle du réseau de la santé, également Yves Montigny du côté de la Côte-Nord, du côté de Baie-Comeau, dans le beau comté de René Lévesque. Donc, on a vu que la CAQ a mis beaucoup d'efforts d'aller chercher des candidatures qu'on pourrait inscrire dans le giron nationaliste. C'est très hâte d'entendre Tom. Bon matin, Thomas.
Hey, salut Marc-André.
Thomas, ce matin, on a appris que Pascal Derry, j'avais eu écho de ça hier soir, ancienne candidate conservatrice, ancienne journaliste du côté de TVA, également une ancienne là, de l'IEDM, l'Institut économique de Montréal, également oui. Actuellement porte-parole de Air Canada, hein, c'est elle qui était aux côtés de Michael Russo, quand M. Russo nous a dit qu'il pouvait très bien vivre là, à Montréal. Je connais bien Mme Derry, parce qu'en 2015, là, j'ai aidé à son recrutement là, en politique fédérale. Oui. Je connais bien Pascal, une habituée des médias. Comment tu vois cette arrivée-là? Plusieurs personnes, plusieurs analystes, on en a parlé ensemble à la joute, disant que M. Legault avait besoin d'une fédéraliste. Mme Derry, je pense qu'elle est une conservatrice fédéraliste. Comment tu vois l'entrée, l'arrivée de Mme Derry là, dans Repentigny pour la CAQ?
Ben, d'abord, parlons de Mme Derry. C'est une excellente pêche pour la CAQ, point à la ligne. C'est quelqu'un qui sait parler devant une caméra, qui est articulé, qui a beaucoup d'entre-gens, beaucoup d'expérience. Alors, bravo, c'est une très bonne pêche pour eux autres. Pour ce qui est d'avoir des fédéralistes crédibles, je pense que Éric Girard, qui est le ministre des Finances, n'a pas de leçon à recevoir de qui que ce soit sur le fait d'être fédéraliste, mais ça vient quand même, après le recrutement de Caroline Saint-Hilaire, souverainiste, convaincue, convaincante, irréductible, qui ne changerait jamais d'avis là-dessus. Et évidemment, Bernard Drainville, idem. C'est un gars qui a toujours été, il est super souverainiste, il ne changerait pas d'idée. Ce qui était gênant, c'était leurs deux conférences de presse, évidemment, et c'est vrai qu'on en a parlé, mais ça vaut la peine de rappeler qu'il y avait une espèce de auto-da-fé politique. Il y avait ces deux souverainistes convaincus, sûrs d'eux-mêmes, qui n'auraient jamais changé de fusil d'épaule, qui étaient obligés de hisser les épaules devant Legault et dire « Ah ben, à bien y penser, je suis peut-être pas si souverainiste que ça, vous voyez. » Et alors, il n'y a personne qui les croyait, ce qui rendait le problème encore plus aigu. Donc, recruter une grosse pointure comme Pascal Derry, tant mieux, oui. En plus, c'est une femme qui, idéologiquement, tu fais référence à l'Institut économique de Montréal, donc c'est ce qu'on appelle un think tank, hein, un organisme de réflexion, mais de droite, vraiment à droite, parfois manquant totalement d'objectivité. Et donc, tant mieux pour eux autres s'ils peuvent mettre quelqu'un de l'avant. Rappelons que la dernière fois, elle était pressentie comme candidate et c'est Robert Libman qui avait décidé de la contester pour l'investiture conservatrice.
Je me rappelle de ça, j'étais au cœur de ces
Elle a perdu contre Libman. Ils l'ont présentée de mémoire dans le centre du Québec, quelque part. Elle a été massacrée aux urnes. Et Libman, évidemment, n'a jamais gagné. Je pense que Pascal Derry aurait gagné.
Je pense aussi.
À Montréal, pour les conservateurs, ça aurait été un résultat absolument exceptionnel. Donc, en plus, c'est quelqu'un qui fait partie de la communauté juive, qui n'est pas surreprésenté au sein de la CAQ. Donc, côté minorité, côté idéologie, côté entre gens, capacité devant une caméra, capacité de mener des grandes réflexions, assez évident pour moi qu'elle se dirige direct au Conseil des ministres de Legault si jamais la CAQ remportait les élections du mois d'octobre.
Mais là, ce qui arrive, là, Tom, présentement, là, puis tu sais, si tu es un bon backbencher, là, un bon Québécois là, de la CAQ, là, un député actuellement là, qui longe les rideaux à l'Assemblée nationale ou qui est au bout, là, face au président.
Assis en dessous de l'horloge.
Je connais bien le Salon Bleu, effectivement. Donc, mais là, quand tu vois Bernard Drainville, Caroline Saint-Hilaire, Pascal Derry, Yves Montigny sur la Côte-Nord, Sonia Bélanger du Réseau de la Santé, là, dans le fond, M. Legault est en train de nous dire dire que dans les 50 députés présentement qui ne sont pas ministres, il n'y en a aucun qui est ministrable?
Oh, que tu montres beaucoup d'expérience avec cette question-là. Et oui, c'est exactement ce que doivent penser ceux qui se disaient « Moi, je suis juste au seuil de la porte. Prochain remaniement, c'est certain que j'embarque dans le sein des saints. » Et oui, Pascal Derry s'en va au Conseil des ministres si jamais la CAQ l'emporte.
Ouais.
C'est drôle. Autant je suis certain pour elle, autant je ne suis... Je dis qu'ils ont des bonnes chances les deux, mais je suis loin d'être certain que Drainville et Saint-Hilaire vont arriver automatiquement au Conseil des ministres.
Ah oui?
Et
d'ailleurs,
c'est le genre de choses qui ne se promet pas. Pour la raison que tu donnes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de prétendants. En plus, il faut quand même regarder la feuille de route. Est-ce que l'un ou l'autre va y aller presque certainement? Est-ce que les deux sont garantis? À mon point de vue, non.
Mais il y a quand même, tu touches un bon point sur, je pense que, tu sais, Mme Derry s'en va dans Repentigny, là. Lise Lavallée qui ne se représente pas, avait gagné, je pense, avec 49%, là. Donc, oui. À partir de ce moment-là, Mme Derry ne prend pas un grand, grand risque, là.
Il faudrait être bougrement malchanceux avec un score comme ça la dernière fois, puis la solidité quand même des appuis de la CAQ. Et disons-le clairement. Pas juste la division, l'atomisation, la fragmentation de l'opposition à la CAQ. Parce que c'est une tempête parfaite pour Legault. Qui, rappelons-le, tout comme Doug Ford, il est dans les 40% dans les sondages. Il n'est pas à 60% des sondages. Au contraire, 60% des Québécois ne veulent pas de François Legault et de la CAQ. Mais qu'est-ce qui arrive avec ce 60%? Bien, il est presque parfaitement divisé selon l'endroit dans la province, Montréal, Québec. Ça change un petit peu, mais disons que c'est presque parfaitement divisé entre l'opposition officielle libérale. Évidemment, le Québec solidaire qui ne cesse d'étonner avec la solidité de ce qu'ils mettent sur la table dans cette période préélectorale. Parti québécois qui est capote quand même, mais qui va aller chercher un 10-15% du vote, peu importe, et le Parti conservateur d'Éric Duhaime. Oh, puis il faut quand même ajouter qu'il y a deux sous-groupes anglophones en protestation contre Dominique Anglade, parce qu'il y a des anglophones à Montréal qui disent qu'elle n'a pas tenu tête assez à Legault sur le projet de loi 96. Alors, Madame Anglade est dans une situation où elle peut performer et dire aux gens « Oui, écoutez, oui, il y a des gens qui trouvent que j'ai pas assez appuyé la communauté anglophone. Il y en a d'autres qui disent que je suis trop enfiodé, mais la réalité, c'est que je représente quand même une vision québécoise moyenne. Donc, elle peut quand même pousser ça. »
Mais ce matin, il y a quand même une bonne nouvelle, là, entre guillemets, pour M. Duhaime, parce que dans Chute de la Chaudière, Marc Picard, hein, l'ancien ADQIS avec Mario Dumont, ne se représente pas. Et ce qu'on entend, c'est que l'annonce se fait tard. On était à 90 jours du vote. Se fait tard parce qu'on ne voulait pas laisser de temps à M. Duhaime de faire du recrutement. Parce que tu sais, tout ce qui est Chute de la Chaudière, Beauce-Nord, Beauce-Sud, Chauveau, ça, c'est le terreau fertile à M. Duhaime, là.
Oui, il va falloir qu'il joue ça prudemment, parce que à mon point de vue, Marc Picard, juste pour parler de la personne un peu, un soldat, un gars croyant, j'ai pu siéger avec lui parce qu'il faisait partie de la petite équipe quand Mario Dumont a cessé d'être seul à l'Assemblée nationale. Marc Picard était un des premiers à arriver. Ça, c'est le genre de gars qui a servi admirablement dans l'arrière-scène, mais très aimé de son monde, puis il avançait en âge et en expérience, puis il a dit « Bon, je vais accrocher mes patins », ce qui est tout à fait correct, et je lui souhaite une longue, heureuse vie de retraite, parce que c'est une très bonne personne, en plus d'être un très bon politicien et représentant de sa région. Mais ça ouvre, mais il va falloir qu'il répète pas la même erreur. Là, tout d'un coup, il avait recruté Anne Casabonne à Montréal, il l'a présenté dans Marguerite Douville, puis là, tout d'un coup, il décide, il va la placer dans un comté proche de Québec, puis oups, forte réaction localement, on dit « Hey, on appuie le nouveau parti d'Éric Duhaime, mais c'est pas vrai que lui, il va commencer à faire comme les vieux partis. » Argument et plainte à propos de laquelle il est particulièrement sensible. On veut pas des gens parachutés. Boup, tout d'un coup, Anne Casabonne n'était pas candidate là-bas. S'il répète l'erreur, puis il essaie d'envoyer Anne Casabonne là, à Chute de la Chaudière, bonne chance avec ça. Moi, je pense que ça risque d'être vraiment un très gros problème pour lui.
Non, effectivement. Puis je pense que M. Duhaime va prendre quelqu'un du coin, là, justement. Je pense
il faut.
A renoncé, justement, lui, à se présenter sur la rive sud, qui, selon moi, aurait été un meilleur terrain pour lui. Il aurait pu se présenter dans Beauce-Nord, Beauce-Sud.
Il va gagner dans Chauveau.
Mais je pense que ça aurait été plus facile dans Beauce-Nord, Beauce-Sud que dans
Chauveau.
Oui,
mais quand on est chef de parti, puis on veut attirer des gens, puis on veut leur montrer à se battre, on ne prend pas le truc le plus facile. On se dit, OK, moi, je suis dans la grande région de la ville de Québec. Moi, je prends Chauveau, parce que le caquiste qui était là a connu des ratés, on peut le dire. Et là, il dit, moi, je veux montrer que j'ai assez de confiance de confronter la CAQ sur son terrain. Et pas aller juste m'occuper du terrain très bleu au sud du Québec. C'est quand même une situation qui commande une décision de chef. Et je pense que Duhaime a cette étoffe-là. Il est étonnant, Duhaime. Mais il va se faire rattraper par ce qu'il promet et ce qu'il dit. Quand il essaie de faire des clins d'œil à la communauté anglophone à Montréal, parce que j'écoute ce qu'il dit à la radio anglaise à Montréal, ça tient pas la route. C'est un vendeur d'huile de serpent. Il essaie de les miroiter des changements, loi 96, loi 21, ils en passent. Mais ça tient pas la route. Et il dirait pas la même chose, justement, à Chute de la Chaudière. Alors, j'ai bien hâte de voir quel Duhaime va se présenter aux élections.
Également, Tom, un autre combat là, qu'on va suivre, c'est du côté des îles de la Madeleine, là, parce que Jonathan Lapierre, qui est le maire des îles, va se présenter contre Joël Arsenault, le député péquiste, et ça va être un match revanche, hein, parce qu'en 2013, si ma mémoire est bonne, les deux se sont présentés, étaient des adversaires à la mairie, et là, les deux vont se retrouver. Donc, on voit vraiment que la CAQ, là, T'sais, on dit tout le temps que François Legault, il veut pas, ou son entourage, peut-être son chef de cabinet, Martin Koskinen, ne veut pas avoir 100 députés, mais vraiment, ils mettent la gomme pour vraiment anéantir, entre autres, le Parti québécois. Là.
Oh oui, puis Québec solidaire, tant qu'à y être.
Oui, avec Mme Saint-Hilaire à Sherbrooke.
Saint-Hilaire dans Sherbrooke, c'est un bel exemple de ça. Donc, eux, ils livrent une bataille politique. Mais parfois, même avec une armée très forte, si on disperse trop les troupes, puis une chose qu'il ne faut pas oublier, que la CAQ a toutes sortes de compétences. Tu viens de mentionner Martin Koskinen, c'est un très bel exemple. C'est un élément extraordinairement important dans l'équipe autour de M. Legault. Mais la CAQ n'a pas beaucoup d'expérience et n'est pas très profond avec son équipe terrain. Ils ont réussi à battre Pierre Nantel dans Marie-Victorin en faisant quoi? En arrachant tout ce qui existait à travers le Québec, en le mettant là pour veiller à gagner ce siège pour la CAQ, et ils ont réussi leur coup. Mais lors d'une élection générale, je m'excuse, il va avoir ces troupes-là vont être réparties à travers le Québec, et ils n'ont pas une équipe très profonde. Parti libéral, on dirait ce qu'on veut, mais il y a une historique, il y a des listes de bénévoles, même dans des places où on va avoir beaucoup plus de chances de voir la CAQ réélue. Benoît Charrette, là, qui va se présenter à nouveau dans le coin de Montagne-Saint-Eustache par là-bas, il va être dur à battre, mais les libéraux ont un candidat, un professeur, chef syndical, et le gars va pouvoir compter sur une très longue série de bénévoles sur son Rolodex. Ça va quand même compter pour beaucoup lors de l'organisation et l'exécution de la campagne.
Tom, un autre sujet qui fait beaucoup jaser présentement, c'est cette décision-là du CRTC de demander là, des excuses là, à Radio-Canada sur l'utilisation du mot en haine dans une chronique un peu plus tôt cette année. Et là, on voit vraiment les ténors, là, les têtes d'affiche de Radio-Canada, Patrice Roy, Céline Galipeau, demander là, justement là, à leur patron, à leur dirigeant de se tenir debout et de ne pas là, formuler là, directement ou indirectement des excuses au CRTC. Est-ce que le CRTC, Tom, avec ton expérience du fédéral, est en train de... Est-ce qu'on existe peut-être un précédent dans le contexte également du projet de loi C-11 qui donne encore plus de pouvoir au CRTC pour contrôler le contenu? Comment tu vois et selon toi, est-ce que Radio-Canada devrait s'excuser comme le demande le CRTC?
Ben, commençons avec ta première question. C11 va commencer à battre de l'aile si c'est vers ça que ça mène. Mais je prendrai un tout petit peu de recul et je dirais que ce cas va exposer au grand jour une différence profonde de mentalité entre le Québec et le reste du Canada. Parce que à Toronto, les excuses auraient déjà été émises si ça avait été fait à CBC.
Bon point.
Et ici, au Québec, les gens disent « à quoi on joue ?» Personnellement, je n'utiliserai jamais ce mot en haine parce que je le connais et je le sais jusqu'à quel point il est blessant. Mais rapportons-nous à Verushka, lieutenant Duval, qui a utilisé dans le cadre d'un cours universitaire à l'Université d'Ottawa ce mot. On voit la tollée que ça a créé parmi certains étudiants. Et voilà que même le Québec s'est doté d'un projet de loi sur les universités pour essayer de dire qu'il faut avoir la liberté d'expression. Alors, plutôt que de prôner la liberté d'expression, le CRTC est en train de s'ériger en maître à penser, en train de dire non, mais tel mot, on ne peut pas, puis là, tu vas t'excuser d'avoir dit tel mot. Moi, je pense que c'est un débat qui est mûr pour avoir lieu, qui va exposer des profondes différences. Ça m'étonnerait énormément que Radio-Canada s'excuse. Et d'ailleurs, je le dis souvent parce que ce qu'on est en train de faire là, toi et moi, Marc-André, je le fais avec Richard Martineau et Jean-François Lisée à longueur d'année. Oui. Puis je m'amuse à utiliser des mots comme bullshitter, puis des mots pas mal plus forts à l'occasion, parce que je dis, ah, mais c'est très bien, nous, on est dans l'Internet, on est en ligne, on est numérique, on n'est pas assujetti au CRTC. Et c'est cette liberté-là qui me fait sourire, parce que effectivement, les débats qu'on a, c'est WWF, hein, on s'arrache la tête, puis les mots un peu plus forts que d'autres s'enlignent. Et moi, j'aime bien une société où on peut avoir ces débats-là. Mais ce fameux mot en haine, on sait que les gens savaient ce qu'ils faisaient en le répétant, parce qu'ils ne l'ont pas juste dit une fois, en ondes. C'était une sorte de... Ils lançaient le défi, essayaient de nous en empêcher. Et on va voir où ça mène. Moi, j'ai l'impression qu'on s'enligne pour une incroyable prise de tête entre Radio-Can et le CRTC, et entre les deux. J'ai vu Jean Charest se mettre le nez hier. Il a envoyé un tweet où il a blasté Justin Trudeau de se cacher dans ce dossier-là. C'était provocateur. Et j'ai bien hâte de voir si Trudeau va avoir le guts de se prononcer.
Penses-tu vraiment que Justin Trudeau, Tom, va s'immiscer là-dedans? Moi, je pense vraiment pas. Là. Je pense qu'il va laisser passer la parade.
S'il avait un bon chef de cabinet comme toi, il laisserait passer la parade. Mais c'est son monde, c'est la base de son idéologie et de son électorat dans le GTA, le Greater Toronto Area, une cinquantaine de sièges. Eux, ils s'attendent à ce que le premier ministre prenne part là-dedans, surtout si Radio-Canada, et c'est ce que je prédis, refuse de s'excuser.
Mais parce que aussi c'est dans un contexte, là, tu sais, je veux dire, dans la chronique là dont on parle depuis tout à l'heure, dans cette chronique-là, oui, ils ont utilisé le mot haine à plusieurs reprises, mais il parlait d'un ouvrage, là, tu sais, c'était pas.
C'est toujours. D'ailleurs, c'est toujours le même ouvrage quand c'est pas l'autre. Comment le faire l'amour à un haine sans se fatiguer. Donc c'est toujours ou presque toujours. Personne n'a pris le micro pour dire un tel, c'est un fichu de haine. Non, c'est jamais ça dont il s'agit. Mais la sensibilité est pas tout à fait la même, mais quasiment. Et l'effet dans la réaction. Mais ce qui m'étonne, c'est que si justement le CRTC commence là à exiger des excuses, peu importe de qui, une radio privée ou une société d'État, pour un truc que eux ils jugent, c'est allé très vite ce truc-là, puis c'est allé directement à l'ultime sanction. Des excuses publiques à l'eau. Alors, moi, j'ai l'impression qu'on va assister à un débat qui ne fait que commencer. On est début juillet. Est-ce qu'on a le droit de dire que le monde dort un peu? Mais, il prend un peu de soleil quand il peut. Non, mais j'ai l'impression que ce truc-là va faire shaker les fondations. C'est pour ça que c'était assez futé, bien que c'est dangereux pour lui, pour sa définition de lui-même pour Jean Charest de jouer ce jeu-là. Par contre, c'est assez intéressant côté politique et on va voir si Trudeau finit par faire quelque chose. Je pense qu'il va être obligé d'en parler tôt ou tard.
Oui, effectivement, Tom, tu as raison. Puis je pense que c'est un dossier qu'on va suivre dans les prochains jours. Puis on va sans doute s'en reparler. Thomas Mulcair, un gros merci, Tom. Puis on se reparle demain matin.
Marc-André Leclerc, il désamorce minutieusement
n'importe quelle bombe qui tombe sur l'actualité. Cube Radio.
Le dossier de la fonderie Horn du côté de Rouyn-Noranda fait beaucoup jaser. Encore dans les nouvelles, le directeur de la santé publique, Luc Boileau, le docteur Boileau, sera du côté de Rouyn-Noranda demain pour présenter certains rapports. Pour voir un peu plus clair dans ce dossier-là, on va aller rejoindre immédiatement Émilise Lessard-Terrien, députée de Québec solidaire du côté du beau comté de Rouyn-Noranda. Témiscamingue, Madame Lessard-Terrien, bon matin.
Bonjour.
Madame Lessard-Terrien, j'ai sursauté hier quand j'ai vu que la Chambre de commerce de Rouyn-Noranda là, s'était inscrite au registre des lobbyistes et que vraiment le mandat, là, c'était écrit noir sur blanc, que le mandat de la Chambre de commerce qui s'est inscrit, c'était pour nuancer vos déclarations publiques, en fait, puis s'assurer que vos propos soient moins alarmistes là, par rapport à la problématique là, de l'arsenic entourant la fonderie Horn là, du côté de Rouyn-Noranda. Vous, comment vous avez réagi dans les dernières semaines, derniers mois, quand vous avez vu, et quelles sont un peu vos relations avec la Chambre de commerce de Rouyn-Noranda, et est-ce qu'ils ont réussi justement à vous faire changer d'idée par rapport au taux d'arsenic là, à la fonderie Horn?
Non, pas du tout. Ils n'ont pas atteint leur objectif avec ce mandat-là. Il faut dire, là, c'était en 2019, la Chambre de commerce m'avait effectivement rencontré pour me demander là, de revoir un peu mon message que je misais à l'image de Rouyn-Noranda. À ce moment-là, faut se rappeler, c'était suite aux révélations là, du premier résultat de l'étude de biosurveillance qui révélait que nos enfants à Rouyn-Noranda avaient 4 fois plus d'arsenic dans leur système que les enfants d'ailleurs. Pour moi, c'était suffisant pour réclamer des gestes dans le dossier de la fonderie, prendre la parole à l'Assemblée nationale. Mais je vous dirais, là, depuis 3 ans, et surtout avec les derniers résultats qu'on a eus en mai, ben il y a eu un changement. La Chambre de commerce a changé son fusil d'épaule et finalement, c'est plutôt rallié, en fait, au fait que la santé des gens doit primer sur les impératifs économiques de la ville de Rouyn-Noranda et réclame plutôt maintenant des gestes dans ce dossier-là. Donc moi, je suis très contente de voir que maintenant, de 2019 à 2022, ben, il y a eu définitivement un changement de ton du côté de Rouyn-Noranda et maintenant, il y a un consensus comme jamais. Tous les acteurs s'entendent qu'il faut réclamer des gestes concrets et ambitieux. Il n'y a pas de voix dissonante sur le terrain à l'heure actuelle. Il y a seulement des absents et ces absents-là, c'est le ministre régional Pierre Dufour, c'est le gouvernement de la coalition Avenir Québec, c'est Benoît Charest, le ministre de l'Environnement, qu'on n'a pas entendu dans ce dossier-là jusqu'à maintenant.
Ben, ce qu'on voit dans les prochaines heures, là, vraiment, c'est vraiment le docteur Boileau, là, sa visite qui est attendue, certains rapports là, qui vont être rendus publics, là, des rapports qui avaient été promis il y a plus de 33 mois là, par l'ancien directeur de la santé publique, Horacio Arruda. Mais vous, concrètement, là, vous venez d'en parler, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement Legault? Est-ce que vous attendez une visite de François Legault du côté de Rouyn-Noranda? Comment vous pensez que le ministre Dufour, là, qui est votre ministre régional, devrait se comporter? Est-ce que vous attendez, là, au-delà de la visite du docteur Boileau, là, quelle autre action vous attendez du gouvernement de la CAQ?
Bien, je pense que la population de Rouyn-Noranda a été très ébranlée dans les dernières semaines par tout ce qui s'est passé. Je pense que la confiance envers le gouvernement du Québec, elle est rompue et il va falloir que la CAQ travaille fort pour regagner la confiance des gens de Rouyn-Noranda. Et on a entendu François Legault, il y a 2 semaines environ, prétendre pouvoir parler au nom des gens de Rouyn-Noranda. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement choquant. Les gens sur le terrain ont trouvé ça choquant. François Legault, ce qu'il a dit, c'est que les gens à Rouyn-Noranda ne veulent pas faire fermer la fonderie Horn. Et il y a juste, en ce moment, il y a juste le gouvernement qui parle de faire fermer la fonderie ou l'entreprise elle-même qui dit que ce serait impossible d'atteindre les normes québécoises sans fermer. Maintenant, moi, je m'attends à ce que François Legault vienne prendre le pouls lui-même de la population à Rouyn-Noranda. Quand la Chambre de commerce, la Ville de Rouyn, le conseil d'administration du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue, les groupes environnementaux, les groupes sociaux, que tout le monde est derrière cette même demande-là d'améliorer la qualité de l'air à Rouyn-Noranda, c'est pas compliqué, là. Alors, moi, je souhaiterais que François Legault puisse venir constater, prendre le pouls de la population de lui-même. Je pense qu'ils ont des comptes à rendre aussi à la population de Rouyn-Noranda parce qu'ils nous abandonnent dans cette situation-là. Et non seulement ils nous abandonnent à nous faire polluer avec de l'arsenic, du plomb, du cadmium et Alouette, mais ils nous abandonnent aussi au point de vue de nos services de santé. Vous savez, à Rouyn-Noranda, on a un centre de cancérologie flambant neuf qui a coûté 66 millions de dollars de fonds publics, qui est incapable d'ouvrir ses portes parce que il nous manque de gens pour travailler dedans. C'est le comble du ridicule. On a une fonderie qui nous rend malade, puis on a un centre de santé qui est incapable de nous soigner en Abitibi et Témiscamingue parce que le gouvernement ne fait pas, ne considère pas nos enjeux en Abitibi et Témiscamingue.
Mais vous, Madame Lessantérien, vous, dans votre conception, puis c'est un dossier que vous travaillez depuis longtemps, depuis que vous êtes élue en 2018 et sans doute même avant, parce que vous vivez là-bas, vous voyez les impacts. Pour vous, dans votre tête, c'est possible de voir la fonderie Horn respecter les règlements puis d'avoir moins un impact direct sur la population sans la fermer?
Bien, je pense que la question qu'il faut se poser, c'est pas est-ce que les moyens technologiques existent? La question qu'il faut se poser, c'est combien ils coûtent? On se rappellera que Glencore, qui est la multinationale qui possède la fonderie Horn, a remis 4 milliards de dollars dans les poches de ses actionnaires en février dernier. Donc, il faut juste mettre l'argent sur la table. On parle de contrôler des poussières, des émanations fugitives. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent être faites pour ça. La fonderie en fait un bout. Mais la fonderie, là, elle joue dans les limites du carré de sable que lui donne le gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec lui permet, l'autorise à émettre 33 fois plus d'arsenic dans l'air de Rouyn-Noranda. Ben, pourquoi? Elle sera pas plus catholique que le pape, là, la fonderie. Donc, c'est la responsabilité, elle revient au gouvernement du Québec de restreindre ce carré de sable-là et de lui exiger la norme québécoise. Et si le gouvernement du Québec veut regagner la confiance de la population de Rouyn-Noranda, il n'y aura pas le choix d'aller là parce que comment est-ce qu'on peut justifier que les gens de Rouyn-Noranda sont condamnés à respirer une air de moins bonne qualité qu'ailleurs au Québec en 2022? C'est injustifiable.
Donc, vous demandez à M. Legault, également au ministre de l'Environnement, également à votre ministre régional, là, Pierre Dufour, là, qui est ministre en charge de la forêt, de venir et de parler à la population. Mais d'ici là, il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a le directeur de la santé publique, Dr. Luc Boileau, qui va être là à Rouyn-Noranda dans les prochaines heures. Est-ce que vous allez avoir une rencontre avec M. Boileau? Est-ce que son équipe vous a contacté pour s'asseoir avec vous, pour participer aux différentes conférences? Il va y avoir des rapports démis sur l'impact de la fonderie sur votre population. Est-ce qu'au moins de ce côté-là, la santé publique et l'entourage de M. Boileau là, est en contact avec vous présentement?
Il y a des contacts qui se font. Moi, je travaille fort pour effectivement pour rencontrer Dr. Boileau. Je l'avais apostrophé à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines déjà sur le dossier de l'arsenic. Donc, il me connaît, il sait que je connais bien le dossier. J'espère effectivement fortement le rencontrer parce que pour moi, bon, je pense que la CAQ achète du temps en envoyant un directeur national de santé publique. Là, c'est un peu un bouc émissaire, mais si en même temps, c'est une voix qui peut s'ajouter au consensus qu'il y a déjà sur le territoire de Rouyn-Noranda pour réclamer la norme québécoise, entre autres, et que ce soit la recommandation qu'il fasse auprès du gouvernement du Québec, moi, c'est l'objectif que je me donne dans le prochain 48 heures, c'est de rencontrer le docteur Boileau et ne pas juste, je pense qu'il s'en vient nous raconter des choses. Moi, je pense que c'est important qu'il vienne nous écouter, qui viennent prendre le pouls de la population de Rouyn-Noranda. Il faut arrêter de faire du top-down. Il faut que ce qui se passe en ce moment sur le terrain, là, ça remonte aux oreilles du premier ministre. Et si le Dr Boileau peut être une de ces voix-là, comme ma voix est une de ces voix-là, je pense que ça, c'est important. Et moi, c'est l'objectif que je me donne.
Avant de se laisser, Mme Lessard-Terrien, dites-moi un peu, c'est quoi le pouls, justement, là, vous êtes très connecté avec votre population à Rouyn-Noranda, c'est quoi un peu comment les gens réagissent, tu sais, nous, on regarde ça d'un regard un peu externe, là. On voit les impacts, on voit les différentes demandes qui sont faites, par exemple, par les différents regroupements, associations médicales, professionnels de la santé, mais la population sur le terrain, là, est-ce que l'inquiétude est palpable? J'imagine que ça cogne à votre bureau de député présentement, là.
Absolument. L'inquiétude, elle est palpable. Il y a des gens qui déménagent, il y a des gens qui sont extrêmement préoccupés par leur santé. Puis, faut comprendre, le quartier Notre-Dame, là, c'est un peu comme notre plateau Mont-Royal. Là. C'est un magnifique quartier. C'est un des quartiers les plus verdoyants de Rouyn-Noranda. C'est là qu'on trouve le théâtre du Vieux-Noranda, le cabaret de la Dernière Chance. Il y a plein de petits commerces, il y a des parcs, c'est beau. Les gens sont extrêmement déchirés. Ils ont l'impression qu'ils doivent faire le choix entre leur qualité de vie puis leur santé, ni plus ni moins. Puis en ce moment, le consensus, il est fort. Les gens réclament des actions veulent s'assurer qu'on respire un air de qualité à Rouyn-Noranda. Puis ça, ça soude aussi des solidarités entre les différentes communautés. Puis ça, ça devient aussi un projet d'autodétermination régionale, ce plus-là, contre la pollution de l'air à Rouyn-Noranda. On est en train d'affirmer ce qu'on veut pour nous, pour notre propre santé à Rouyn-Noranda. Ça, je pense que c'est positif. Puis vous savez, encore la fin de semaine dernière, c'était le Festival d'humour émergent à Rouyn-Noranda. C'était tellement beau. Il y avait tellement de beaux monde. Il y a un foisonnement culturel comme jamais, mais l'ombre qu'on a sur la tête, c'est les cheminées de la fonderie, c'est cette situation-là d'arsenic. Mais quand on va avoir réussi à gagner notre point, parce que j'ai confiance qu'on va gagner notre point, ben Rouyn-Noranda, je pense qu'il va se mettre sur la map pour ces raisons-là aussi, comme un peuple, une population qui est capable de se tenir debout et qui ne s'en fait pas passer au travers de la gorge. Ça, c'est extrêmement important.
Émilie Essart-Terrien, députée de Québec solidaire dans le comté de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, un gros merci d'avoir été avec nous ce matin pour parler de ce dossier très important chez vous, de la fonderie Horn. Au plaisir.
Marc-André Leclerc.
Le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette.
Vous écoutez Marc-André Leclerc. Cube Radio.
La nouvelle a fait réagir beaucoup hier du côté de nos auditeurs qu'on a appris hier matin là, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, 2 millions de litres de lait là, qui avaient été jetés là, suite au conflit qui se déroule actuellement du côté de l'usine d'Agropure, du côté de Granby. Pour en discuter, on va aller rejoindre la vice-présidente aux communications corporatives chez Agropure, Mylène Dupéré. Madame Dupéré, bonjour.
Bonjour.
Est-ce possible, madame, en débutant, madame Dupéré, de nous dresser un peu l'état de situation? Là. Donc, les employés, les 250 employés sont en grève générale illimitée depuis là, jeudi dernier. Présentement, là, est-ce qu'il y a des discussions? Là, est-ce qu'autant l'employeur, vous, Agropure, que le syndicat, là, vous êtes autour de la table en train de négocier pour essayer de trouver là, une résolution à ce conflit-là?
La grève a été déclenchée mercredi dernier, donc okay. Le 29 juin. Le matin, très tôt, on était avisé avec moins d'une heure de délai qu'il y aurait la grève. Bien entendu, vous comprendrez qu'on avait des plans de contingence en place là, pour une situation comme ça, mais avec une heure de délai, c'est pas énorme là pour se retourner. On avait 400 000 litres de lait qui étaient présents dans nos silos, qui n'ont pas été vidés là, lors du départ des employés de l'usine. Donc, on a eu 12 camions citernes qui sont venus chercher ce 400 000 litres de lait-là qui a été envoyé dans d'autres usines là pour éviter le gaspillage. Donc, depuis ce temps-là, évidemment, là que nous, on souhaite ardemment que les discussions continuent et on souhaite un règlement rapide pour éviter justement qu'il y ait du gaspillage de lait.
Est-ce qu'il y a des, Mme Dupéré, est-ce qu'il y a présentement, est-ce qu'il y a des discussions où là, c'est au point mort et chacun, là, bien sûr, là, explique là, sa version des choses là, dans les différents médias d'information.
Alors, d'abord, là, nous, ce qu'on souhaite, c'est de ne pas discuter sur la place publique. On préfère négocier à la table de négociation. Donc, on évite, là, vous comprendrez, de discuter dans les médias de tous les détails de l'entente. Mmh. Ce qu'on dit, ce qui est important pour nous, vous savez, nous, on est une coopérative. Nos propriétaires, dans le fond, nos membres se retrouvent à être des producteurs laitiers du Québec qui ont dû ajouter du lait. Oui. Donc, on est très, très préoccupés par la situation et c'est pourquoi, là, pour nous, c'est extrêmement important de faire tout en notre possible pour en arriver à un règlement le plus rapidement.
Est-ce que, Mme Dupéré, est-ce que présentement, est-ce que vous êtes en... J'imagine que vous êtes en contact là, avec l'association, le regroupement des producteurs laitiers du Québec. Justement, est-ce qu'il y a des solutions là, pour vous? Comment vous pouvez aider justement les producteurs laitiers qu'on a vu dans les différents... on a vu différentes histoires, différents reportages où, justement, là, vous nous dites que vous avez été capable de sauver les 400 000 litres qui étaient chez vous déjà du côté de Granby, chez Agropure, pour du côté de la fromagerie. Mais les producteurs, normalement, là, qui vous donnent là, le lait sur une base hebdomadaire ou quotidienne, comment vous pouvez, est-ce que vous êtes capable de les aider présentement ou le problème est dans la cour là, des producteurs laitiers du Québec? Là?
Non, on travaille en étroite collaboration avec les producteurs laitiers du Québec. Juste à titre d'exemple, là, des choses qu'on a faites, on a évidemment regardé dans l'ensemble de nos usines pour être capable de voir ce qu'on pouvait prendre de plus comme production. Vous savez, il y a quand même des capacités maximales de transformation dans nos usines, mais on a organisé le travail de manière à ce qu'on puisse en prendre davantage pour éviter le gaspillage. On a aussi fait des dons de lait quand on voyait que c'était pas possible là, de par exemple, le transformer en fromage. On était quand même en mesure de le pasteuriser, de le mettre dans les emballages et de les donner. Donc, on a fait des dons de lait. On a également communiqué avec d'autres manufacturiers pour puis qui se retrouvent là notamment à être nos concurrents. Là. Mais vous savez, dans une situation comme ça, tout le monde met la main à la pâte. Donc, on a communiqué avec d'autres manufacturiers pour voir s'ils étaient en mesure de prendre plus de lait dans leurs usines. Donc, moi, je vous dis, là, on fait vraiment tout. On continue de tout faire en notre possible là, pour assurer là, de limiter là, le gaspillage de lait. Ce serait vraiment aux producteurs laitiers du Québec de vous le confirmer. Mais de ce que j'en comprends, là, il n'y a pas d'autre lait là, qui sera jeté là, dans les prochains jours.
Donc, vraiment, la perte là ou le fait d'avoir jeté du lait est arrivé au début parce que vous me dites que mercredi passé, vous avez été pris par surprise, là, un peu par cette grève générale illimitée-là. Donc, depuis, là, au cours des 5-6 derniers jours, le fait de travailler ensemble, travailler avec les différents partenaires dans votre secteur économique, vous êtes capable d'amoindrir ça présentement, là, cette perte-là.
Exact. C'est-à-dire que nos plans de contingence qu'on avait planifiés, là, sachant qu'il était possible qu'une situation comme ça se produise, ont été mis en place. Certains sont plus longs à mettre en place. Vous comprendrez, normalement, quand on a l'entretien de notre machinerie dans nos usines et que la machinerie doit, donc l'usine doit arrêter pour quelques jours, on avise les producteurs laitiers du Québec des mois à l'avance. Donc, évidemment, on n'avait pas ces mois-là dont on aurait eu besoin, mais quand même, il y a beaucoup d'éléments de nos plans de contingence qui ont pu être mis en place là, pour en arriver à une situation puis éviter le plus possible le gaspillage alimentaire parce que, comme je vous disais, nos producteurs laitiers qui sont nos membres, pour eux, c'est extrêmement préoccupant. Ça l'est également pour nous, évidemment.
Mais vous êtes sans doute consciente, Mme Dupéré, que pour la population, dans un moment où le coût de la vie augmente, l'inflation, de voir comme ça 2 millions de litres de lait là, jetés aux poubelles, c'est sûr que ça fait réagir les gens. Là. Donc, on peut, à partir de maintenant, là, on peut s'attendre à ce que ce chiffre-là ne va pas augmenter dans les prochains jours.
Écoutez, évidemment, là, nous, chez Agropure, on ne peut pas vous donner, garantir cette information-là. C'est vraiment les producteurs laitiers du Québec là, qui ont le mandat de répartir le lait de tous les producteurs laitiers du Québec dans les usines au Québec. Mais ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, on est très au fait de la situation. On est préoccupé par la situation et on fait vraiment tout en notre possible pour limiter ce gaspillage-là. Donc, tous les éléments que je vous ai dit qui sont mis en place là, pour s'assurer qu'on transforme le plus de lait possible. Vous le savez, là, l'usine de Granby, elle transforme 800 000 litres de lait par jour en moyenne. Ça équivaut à 10 % de tout ce qui est transformé partout au Québec. C'est pas rien. C'est une grosse quantité. Souvent, il y a des situations aussi là, qui sont hors de contrôle, qui fait que les producteurs de lait du Québec doivent transiger avec des surplus de lait normalement. Alors là, c'est un petit peu la situation. Ces 800 000 litres de lait s'ajoutent. À ça, c'est pas une situation évidente, mais je peux vous dire qu'on fait vraiment tout en notre possible avec les producteurs laitiers du Québec pour s'assurer là, qu'il y a vraiment le moins de gaspillage alimentaire possible. C'est une situation qui nous préoccupe énormément.
En terminant, Mme Dupéré, je comprends que vous ne voulez pas négocier sur la place publique des clauses là, qui sont des articles qui sont dans la convention collective, mais si le conflit là, perdure, est-ce que vous demandez, est-ce que vous souhaitez une intervention du gouvernement avec une loi spéciale, par exemple, pour mettre fin au conflit?
Bien, écoutez, on n'en est pas rendu là. Pour nous, ce qui est important, c'est vraiment d'être à la table, de continuer les négociations. Vous le savez, là... les négociations sont en cours en ce moment. Il y a des discussions qui ont lieu aujourd'hui. Nous, on a vraiment une vision pour l'avenir de l'usine de Granby. Puis, ça consiste en un investissement majeur qui va nous donner plus de flexibilité puis d'agilité pour transformer plus de lait. Donc, on mise beaucoup là-dessus. Et on espère qu'on pourra trouver une solution le plus rapidement possible.
Mylène Dupéré, vice-présidente aux communications corporatives chez Agropure. Un gros merci d'avoir été avec nous ce matin.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Bonne journée. Donc, sans doute un dossier qui va faire beaucoup réagir encore une fois au cours des prochains jours, prochaines semaines. On va voir comment le gouvernement, est-ce que le gouvernement du Québec va vouloir se mêler de la partie, parce qu'il y a personne qui aime se voir 2 millions de litres de lait jetés aux égouts comme ça. Et également, on pourra faire aussi le suivi dans les prochains jours avec les producteurs laitiers du Québec pour voir s'ils sont capables justement d'orienter leur production dans d'autres usines à travers la province ou même à travers le pays. Donc, ça a été un gros plaisir, encore une fois, d'avoir été avec vous aujourd'hui. Je vous laisse entre bonnes mains avec mon collègue Alexandre Moranville sur les ondes de Cube Radio.
Cube Radio.